à notre séance, mais très brève, on ne lui a absolument pas demandé de conférence ni d'exposé.
Ouais, pas improvisé, d'ailleurs.
Après quoi, nous tous, j'espère, lui adresserons les questions qui sont liées à notre programme de réflexion et de travail et à l'axe de notre interrogation concernant le jeu des acteurs. Voilà, cher Jean-Marie, merci beaucoup.
Merci, c'est moi qui remercie. D'abord, je suis très heureux d'être invité. Je trouve que depuis 7-8 semaines, je ne sers plus l'État directement. Donc, j'ai la liberté de répondre à beaucoup d'invitations auxquelles je pouvais répondre auparavant. Mais depuis quelques années, j'ai beaucoup voyagé parce que justement, ce sujet du théâtre des Jésuites est devenu un grand sujet européen. Hein. Donc depuis quelques années. En Allemagne, ça a été assez tôt, pour des raisons d'histoire confessionnelle évidente. Hein. C'est-à-dire il y avait une tradition protestante, une double tradition protestante, et puis une tradition catholique. Donc on a essayé de revaloriser, après le Kulturkampf, etc., l'histoire du catholicisme allemand, et on est forcément tombé sur les jésuites, et on est forcément tombé sur les moyens d'action, donc à l'époque le théâtre. Voilà. Mais je constate aussi qu'en Italie, qu'il y a des fonds absolument énormes, hein, on s'y intéresse beaucoup, à Milan, à la Sapienza à Rome, à Roma II, etc., en Europe centrale, je ne vais pas y aller, la Pologne, naturellement, est un lieu où, en plus, les études théâtrales sont extrêmement actives, hein, et de très très grand niveau, mais aussi maintenant l'Espagne, le Portugal... où on considère son propre trésor comme digne d'intérêt, alors que dans des questions culturelles importantes, ça avait été repoussé au second plan. Alors en France, c'est un petit peu moins, hein, probablement parce qu'on a eu une littérature théâtrale professionnelle, c'est un des points dont il faudra parler, qui s'est affirmée plus tôt et qui a eu une reconnaissance, avec toutes les réserves qu'on peut marquer, mais quand même qu'il y a une reconnaissance officielle forte, hein, qu'on n'a pas dans d'autres pays. Autrement dit, la séparation, puisqu'on a parlé de théâtre pédagogique, où on dit théâtre de collège, hein, ce théâtre de collège était au fond refoulé aux marges. Hein. Ce qui est probablement excessif, parce que au lycée Louis le Grand, Voltaire a fait représenter de ses propres pièces, il y a des créations des pièces de Voltaire, hein, qui est là, que tous les grands classiques du XVIIIe siècle sont des anciens élèves des jésuites et y ont appris par conséquent un contact avec la pratique théâtrale, l'écriture, mais aussi, puisque c'est votre sujet, donc le jeu théâtral. Voilà, ça c'est peut-être la première chose. Alors d'autre part, moi j'ai travaillé évidemment sur le monde germanique parce que je suis germaniste, bon, il faut bien faire des choix. C'était complètement nouveau parce que le corpus était complètement en latin, à 98%. On n'avait jamais vu ça dans les études germaniques. Quelqu'un qui ne travaille pas sur un corpus en allemand. Et à l'époque, j'étais quasiment convoqué par celui à qui j'ai succédé, c'est-à-dire Claude David, l'éditeur de Kafka, qui m'a dit, c'est vrai que tous vos textes sont en latin. J'ai dit, oui, monsieur. Alors il m'a regardé, puis il m'a dit, mais vous savez l'allemand. On a pu continuer. Ce qui était... Je veux dire, c'était assez nouveau. Hein. C'est un type d'objet qui, dans la recherche scientifique, n'était pas traité ou... laisser à des historiens, bon, il fait de l'histoire du théâtre de collège, et puis voilà, ça n'implique rien, ni du point de vue de la littérature nationale, ni du point de vue des études théâtrales, qui étaient au fond très embryonnaires. Voilà, c'était un point qu'on pourrait dire. Et puis alors, deux, trois remarques. Donc, ce théâtre des Jésuites, c'est effectivement un phénomène historique, hein, qui est bien marqué. Bon, en gros, 1550, c'est-à-dire encore avant la fin du Concile de Trente. Qui se termine en 1563. Je donne parce que c'est le grand concile du catholicisme qui, au fond, ne sera remis en cause que par Vatican II. Et pendant 4 siècles, en gros, le catholicisme fonctionne à peu près sur les mêmes bases. Donc ça commence vers 1550 et ça s'arrête au plus tard en 1773, qui est l'année de suppression donc, de la Compagnie de Jésus par le pape. Compagnie qui avait été supprimée avant par les Bourbons. Donc en France, au Portugal, de Sicile, Naples, etc. Hein. Mais pas dans les pays germaniques où ça survit jusqu'en 73. Les Habsbourg gardent leur confiance. Il y a deux grands, hein, un espace Bourbon et un espace Habsbourg pour la fin du XVIIIe siècle. Alors l'importance culturelle, évidemment, elle est beaucoup plus grande pour le XVIe siècle et je dirais jusqu'à la fin de la guerre de 30 ans, à peu près. Hein. On peut aller jusqu'à 1680 pour retrouver les grandes coupures classiques, hein, la crise de pensée européenne, etc. Hein. L'importance culturelle est tout à fait énorme. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter, peut-être pour juste cadrer. Alors, bon, il s'agit d'une pratique qui est liée à une invention formidable de la civilisation européenne, qui est le collège, l'enseignement secondaire, qui n'existe pas avant, hein, et qu'on invente en gros à partir des années 1530-1540, donc avant les jésuites cette fois, qui est une invention de ce qu'on appelle les hiéronymites, c'était pas des moines, hein, c'était des gens qui étaient des laïcs, mais regroupés en communauté, les frères de la vie commune, comme ils appelaient, qui est donc une invention des Pays-Bas. Et celui qui hérite de ça, c'est Sturm, comme la tempête, donc c'était même Jean Sturm, à Strasbourg. Et Strasbourg est le premier collège, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Gymnase à Strasbourg, Gymnasium. Hein. Donc ils le font en 1538. Donc à partir de là, il y aura aussi. Bon. Alors, pourquoi un théâtre deux mots juste pour que vous puissiez ensuite, si vous êtes moins familier, poser des questions. Le théâtre est donc d'abord lié à une réforme pédagogique. Et par conséquent, son institution porteuse, hein, c'est le collège, ça c'est clair. Ça c'est la première des choses. Donc les jésuites vont pratiquer le théâtre comme tout le monde pratique le théâtre, tous ceux qui font du théâtre, du collège, pardon, de l'enseignement secondaire, hein, pratique du théâtre. Bon, avant, ça avait été un peu à l'université, mais ça n'a pas donné grand-chose. Il fallait avoir des jeunes enfants, hein, etc., pour le faire. Ça, on peut revenir aussi sur ce point. Donc, c'est lié à la pédagogie. C'est lié au primat de la rhétorique. Là-dessus, ce qu'a dit Monteanu le premier, puis Fumaroli, naturellement, puis un petit peu Mozi, quand même. J'ai quand même publié avant Marc. Mais c'est pas une question d'antériorité ni de paternité. Il est clair que c'est le système rhétorique qui produit le théâtre. Hein, c'est-à-dire, le théâtre naît du système rhétorique et en même temps, c'est une des formules que j'avais données jadis, bon, il naît du système rhétorique et en même temps, il en est le couronnement. C'est là qu'on lui forme, on lui donne la preuve de la parole maîtrisée. Hein. La parole maîtrisée, c'est d'abord le problème de la parole. Et puis, un dernier point peut-être, deux points encore. Contrairement à ce qu'on croit en France, en tout cas dans d'autres pays, comme l'Espagne, comme les pays germaniques. Bon, l'Italie, c'est plus nuancé. En tout cas, c'est vrai pour l'Europe centrale, c'est vrai pour la Pologne. Ce n'est pas un théâtre réservé au collège. Les grandes représentations, il y a deux types de pièces. Il y a des pièces à l'intérieur. Donc, on dit en latin, sine scenico apparatu, c'est-à-dire sans décoration scénique, à l'intérieur des parois, comme ils disent, des parietes, hein, des murs du collège. Et qui est donc là lié à la classe, vraiment lié à la pratique pédagogique. Et il y a les grands jeux qui sont donnés à l'extérieur. À Vienne, par exemple, il y a eu une salle spéciale où il y avait 3000 places. C'est pas rien, donc on ne peut pas imaginer que ce soit seulement les élèves. Hein. Il y avait 3000 places et l'empereur venait en personne assister au milieu, hein, exactement comme à l'opéra du Pomodoro. Il est dans l'axe central, au premier rang, et puis on dispose sous les dignitaires de l'Empire ou la famille impériale, à droite et à gauche de l'Empereur, selon le rang de préséance. Donc ça, c'est un élément, ou alors ils envahissent les villes, enfin, fin du XVIe siècle, il y a d'énormes processions, il y a d'énormes défilés, etc., avec des représentations au milieu. Donc ce sont des complexes extrêmement variés, c'est ce que je voudrais dire aussi, c'est extrêmement varié, il n'y a pas qu'une seule forme. Voilà. Et puis alors l'autre point, mais ça va nous amener sans doute très vite à vos questions, c'est le fait que ça se situe à l'intérieur d'un problème de l'Église catholique, pour les calvinistes c'est réglé, hein, il n'y en a pas. Bon. Donc si vous voulez comprendre Rousseau, la lettre sur les spectacles, vous pouvez vous rappeler qu'il y a la filiation calviniste, et puis vous avez la clé pour entrer. Hein. Pour les luthériens, c'est mélangé, mais ça se fait avec les villes, puisque les luthériens ont une structure décentralisée. Pour l'Église catholique, il y a deux positions. On est contre le théâtre en général, depuis les pères, ça c'est clair. C'est le monde de l'illusion, le monde du démon, pompe diaboli. C'est la pompe de Satan lui-même, n'est-ce pas, qui nous entraîne dans la chute, avec toute la polémique contre les acteurs, avec la polémique contre les actrices, qui est un redoublement de la politique contre les acteurs. Donc, il y a toute cette polémique, et en même temps, à l'intérieur du catholicisme, il y a ceux qui défendent un autre type de théâtre que le théâtre professionnel. Hein, c'est ça qui est vraiment l'essentiel, parce que souvent on confond tout, on dit l'église est contre le théâtre, c'est pas vrai. À l'intérieur, il y a énormément, depuis Saint-Thomas d'Aquin, il y a énormément de gens qui disent, mais attendez, comment voulez-vous qu'une chose soit mauvaise si elle ne peut pas être bonne? Ben, excellent raisonnement de Saint-Thomas, qui mène pas mal sa pensée en la chair. Hein, donc il faut, il y a des possibilités qu'elle soit bonne, cette chose-là. Cette chose-là ne peut être bonne, comment? Qu'en étant à l'intérieur de l'église. C'est une tentative. Vraiment, moi, je l'ai toujours interprété comme ça. Et je crois que maintenant, c'est assez ennemi. Une tentative pour sauvegarder le spectacle, une culture du spectacle à l'intérieur donc, du spiritualité qui est au fond tridentine. Hein. C'est quand même plus facile, ça s'insère mieux. Dans, voilà. Alors, du coup, la question de l'acteur se pose de toute façon tout à fait différente. Voilà. Je vais juste vous dire un petit peu calme.
Merci. Nous avons évidemment, enfin, autour de la table, des questions que j'imagine assez diverses. Alors, il n'est pas question d'établir un ordre rigoureux et encore moins rigide, mais pour lancer un peu les choses, nous pourrions peut-être, en respectant le mouvement d'ailleurs de ce que vous venez de faire, nous pourrions peut-être, si nous en avons, certainement, poser d'abord quelques questions des éclaircissements factuels, tous ceux d'entre nous, et nous sommes nombreux, et j'en suis, qui sont totalement ignares dans ces questions. Si nous pouvons simplement vous voler quelques informations au passage, même élémentaires, et puis entrer peut-être plus profondément dans les questions qui touchent notre programme de réflexion. Alors, j'en ai simplement une au point de départ. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je sais que vous pouvez, mais est-ce que vous voulez bien nous en dire un peu plus sur cette réforme pédagogique qui est dans laquelle s'inscrit le mouvement d'introduction de l'art dramatique?
Voilà, en France, c'est une réforme humaniste, hein, d'abord, ce sont les humanistes, et de ce côté-là, les jésuites, j'ai tiré une espèce d'opéa historique sur l'humanisme, hein, chez les luthériens et chez les catholiques. Et c'est la base, vraiment, c'est d'ailleurs très bien pour nous, je pense, encore, parce que c'est vraiment la base de l'enseignement secondaire. Avant, il n'y en a pas, puisque les élèves sont formés dans les écoles latines, dans des écoles qui sont rattachées au couvent, généralement, ou aux cathédrales, hein, et qui fournissent soit le personnel ecclésiastique, soit, pour les villes, naturellement, des gens qui vont être dans l'administration des villes ou dans l'administration des cours. Mais il y a un gros phénomène qui se produit au fin 15e, début 16e siècle, c'est le développement de l'administration, hein, sur le modèle d'ailleurs de l'État du Vatican et d'autres institutions, dont la France, hein, où on a l'idée d'organisation, on a l'idée d'administration, et on commence à faire ce dont nous voyons les suites aujourd'hui, évidemment, de plus en plus complexes, c'est-à-dire que la notion d'État administré émerge. Et pour le faire, il faut des cadres. Et on choisit de créer ces écoles secondaires, finalement, et de les développer à travers toute l'Europe occidentale, hein, pour fournir les cadres nécessaires. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on enseigne, hein? Bon, la langue est le latin, ça c'est clair. Hein? Simplement, dans les pays de langue romane, on passera plus vite aux langues vernaculaires que dans les pays germaniques. Plus vous allez vers l'Europe du centre et de l'est, plus le latin est maintenu, comme langue, y compris comme langue littéraire, d'ailleurs. C'est un phénomène qui est assez bien connu. Donc, la langue et le latin. Les classes sont structurées par niveau. Et en même temps, on s'efforce de plus en plus de faire coïncider l'âge avec le niveau. Ce qui n'est pas du tout le cas au Moyen-Âge. Vous pouviez vous trouver à 18 ans ou à 40 ans, débutant. L'équivalent du classe de 6e d'aujourd'hui. Au contraire, là, donc, à partir de 10-12 ans, on prend les enfants, parfois 9 ans, s'ils sont très brillants, qu'on a repérés dans les paroisses, à la campagne ou ailleurs, où, naturellement, l'aristocratie passe aussi ses enfants, hein, pour les former. Donc, classe de niveau, et puis c'est un enseignement essentiellement littéraire et oral. Donc, la maîtrise du latin, imaginez le nombre d'exercices, ceux qui sont passés par le grossus latinum, comme on dit en allemand, se souviennent bien de tous ces exercices. Donc, ils ont pratiqué les exercices et ils lisent les auteurs. Ils les lisent d'ailleurs assez tôt, dès la 3e, 4e année. Ils lisent les auteurs antiques. Donc, mais uniquement en latin, il n'y a pas de grec. Il y en aura plus tardivement et puis c'est exceptionnel. Le grec, c'est plutôt une affaire d'universitaire, dans les collèges d'université, mais pas dans les collèges secondaires. Voilà. Et le latin est parlé. Donc, il faut rendre ce latin vivant, et en partie on va vers le théâtre et la rhétorique pour ça. Parce qu'on a au moins un témoignage du latin parlé sur les comédies latines, hein, de Plaute et de Terence.
Une fois la réforme installée dans le monde, dans les mondes protestants, les structures pédagogiques sont très différentes, par exemple par rapport à la langue, par rapport au latin. Les structures pédagogiques sont très différentes ou voisines ?
Non, c'est tout à fait voisin. C'est tout à fait voisin globalement. Alors il y a évidemment des différences parce que il y a des Schulordnungen, c'est-à-dire des règlements scolaires qui sont donnés par les villes ou par les états territoriaux, hein, mais les grands repères, hein, les grandes lignes sont identiques. Ça c'est clair. Et c'est pareil dans le catholicisme. Il n'y a pas. Bon, les accents sont différents, mais voilà. Simplement, on utilise plutôt, notamment au XVIIe siècle, en tout cas en Allemagne, on utilise plutôt la traduction, donc la version, hein, la traduction vers la langue maternelle, puis l'utilisation de la langue maternelle aussi dans certains exercices. Donc il y aura un retard, ce qui vous explique toujours que les protestants allemands ont toujours considéré qu'ils représentaient la langue allemande et la littérature allemande, et que les catholiques étaient décalés par rapport. Hein, ça, c'est...
Et pour ce qui est du théâtre, vous dites que dans le monde, dans l'espace calviniste, il est complètement banni. J'avais cru comprendre, mais je me trompe peut-être, c'est une information de 15e main, que le Théodore de Bèze, Abraham sacrifiant Théodore de
Bèze,
c'est
un drame biblique, hein, comme on l'a fait à l'époque, donc de l'Ancien Testament d'ailleurs. Oui. On dit bien que c'est plutôt l'Ancien Testament que le Nouveau, et puis c'est vraiment un apax à la limite. Hein, il n'y a pas beaucoup d'autres exemples.
Ah, d'accord. Ouais. Mmh.
Et puis vous aurez des pièces écrites par des calvinistes, aux Pays-Bas par exemple, du Manis comme Grotius Hugo de Groot. D'autres encore, tous les grands théoriciens aussi, soit du droit, soit de la poétique, qui vont d'ailleurs souvent ensemble, hein, chez Grotius, ils vont écrire des pièces, mais et ce sont des livres, hein, c'est pas, ils les publient. Hein. Ils les écrivent en latin, d'ailleurs. Il y a un Christus Patiens, il y a un Adam Exul, donc les deux se correspondent naturellement. Adam, c'est la chute, Christ, c'est la rédemption, etc. Mais c'est pas fait pour être joué. Mais vraiment, le jeu. Si vous vraiment centrez sur le jeu, ça c'est clairement soit le protestantisme luthérien, hein, moins bien organisé évidemment que les jésuites, parce qu'ils ont une organisation qui, sans être unifiée, est quand même sur le même modèle. Hein, et d'autre part, ils ont une pratique constante. Quoi. Dans chaque théâtre, il y a au moins 7 à 8 pièces par an. Le collège.
Vous dites les auteurs, est-ce qu'il y a quelque chose comme une censure? Mais d'abord, est-ce une question comme une différence de langue entre bon et haut latin et bas et mauvais latin ou pas? Et deuxièmement, sur les auteurs, ça proportionne à l'âge, c'est comment?
Oui. Alors, d'abord, la question de la qualité du latin. Il faut reconnaître que, en gros, hein, ça ne veut pas dire que c'est comme ça toujours dans la réalité, mais en gros, la référence des jésuites, c'est le latin humaniste. Corriger quand même, parce qu'il y a des termes qui ne s'y trouvent pas dans le latin cicéronien, naturellement. Si vous voulez dire baptiser, baptisare, Erasme accepte, hein, mais le problème s'est déjà posé avec Erasme. Hein, mais le choix est quand même fondamentalement que c'est un latin littéraire, hein, et que ce n'est pas du latin d'église. C'est ça qui est important, parce que souvent en France on a dit oui, bon, c'est un truc de curé, donc c'est pas vrai, n'est-ce pas? Sauf, mais je vous dis, c'est tellement varié comme type de forme, sauf dans les pièces qui ont à voir avec des cérémonies religieuses, directement branchées sur des cérémonies religieuses, hein, c'est-à-dire l'équivalent des autos sacramentales, n'est-ce pas, hein, il y a les fêtes du Corpus Christi, les fêtes de la fête Dieu, où on peut donner des dialogues, des petites représentations. Elles sont forcément rattachées à l'événement, à la doctrine de la présence réelle. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait participer les gens qui sont autour. Donc on chante comment? On chante des cantiques. Alors eux, évidemment, ils remontent à la tradition du Tantum Ergo, le Stia Salutaris, etc. Donc tous les grands cantiques de l'Église catholique. Ça, pour répondre bien, mais fondamentalement, c'est un latin qu'on veut de qualité. Alors qu'ils ne soient pas tous à la hauteur, ça nous amène aux auteurs. Alors les auteurs, c'est quoi? Ben, ce sont des régents. Ce sont des professeurs. Et le métier de professeur est un métier intermédiaire dans la carrière d'un jésuite. C'est-à-dire, il fait ses études, lui, secondaires, comme tout le monde. Quand il a fini, on en détecte 2-3, on doit essayer de les pousser, etc., parce qu'on fait un recrutement quand même de qualité, je crois, enfin, selon les critères de l'époque, on est très attentif à la qualité intellectuelle des gens. Et on les envoie faire leur classe de philosophie à une université qui est généralement tenue par les jésuites. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas toute l'université, mais ils tiennent les deux facultés de théologie et de philosophie d'abord et de théologie ensuite. Donc ils font leurs études de philosophie, hein, selon la physique, métaphysique, etc. Logique, physique, métaphysique. Les trois niveaux selon l'organon aristotélicien. Et au bout de ça, on leur dit, bon, vous entrez, ils font leur vœu, etc. Ils ne sont pas encore jésuites, parce que c'est un long processus, hein, et qu'il faut être admis au quatrième vœu spécial de l'Union au pape. Généralement, ça se fait plutôt vers 30 ans. Donc, ils ont passé pas mal. Mais qu'est-ce qu'on fait d'eux quand ils ont fait leur philosophie? On les envoie enseigner en collège. Autrement dit, là, ils vont enseigner dans les petites classes, d'abord, et puis on dit, ah ouais, celui-là, il est bon, il a une plume facile, il écrit bien en latin, on va lui donner une classe d'humanité, c'est-à-dire une classe de seconde, hein, ou une classe de rhétorique, comme on appelait encore nos classes de première, jadis. Il y a déjà assez longtemps, mais enfin, ça existe encore, je crois, dans l'enseignement catholique, que j'ai pas fréquenté, moi, je suis de la République et laïque. Mais, donc, on les envoie là, et ce sont eux qui sont chargés soit d'écrire de petits exercices dans les petites classes, soit d'écrire une grande pièce, chaque année. Et là, ils peuvent rester en fonction un certain nombre d'années. Et quand ils ont fait ce travail, on les envoie faire leur théologie. Et à ce moment-là, ils entrent. Ils font autre chose, ils peuvent devenir professeurs de théologie, ils peuvent devenir recteurs de collège, ils peuvent devenir, etc. Autrement dit, dans une vie de jésuite, ou une carrière, déjà plutôt une carrière, parce que qu'est-ce qui reste de vie personnelle? Pas grand-chose. D'essayer de dresser des centaines de biographies sur la base des archives à l'époque, au fond, c'est toujours le même descriptif. Bon, à telle année, il est nommé prof de l'humanité à tel collège, à Clagoutfourg, je ne sais pas où, et puis il y reste 2 ans, et puis après, il est nommé à un autre collège. Il bouge. Hein. Il n'y a pas de couvent chez les jésuites, ça, il faut se rappeler ça. Hein. Il n'y a pas de couvent. C'est très important. Hein. Ils ont des maisons. Hein. Domus. Hein. House. Hein. Mais ils n'ont pas du tout de couvent. On dit, ils n'ont pas la stabilitas loci qui était caractéristique des ordres religieux. Stricto sensu, ce n'est pas un ordre religieux. C'est un institut. Il n'a pas de règles, il a des constitutions. Pas de régula, mais des constitutions. Donc nos auteurs, voilà, ce sont des auteurs une période de leur vie. Alors ce qui se passe avec le temps, évidemment, ce qu'on en trouve qui sont vraiment très bons. Moi je dis toujours dans la littérature allemande, je m'excuse, mais les deux meilleurs dramaturges du XVIIe siècle, c'est Biedermann au début du siècle, qui est jésuite, et Avancini à Vienne, après 1650, 1680, autour de 1650, 1680. Et alors là, ils vont donner des pièces pendant 20 ans. Une espèce de carrière qui se fait. Hein. Et on a même créé, à un moment donné, une fonction très rare. C'était un peu les détachés CNRS de l'époque. C'était scriptores. Scriptores instituti. Ils avaient droit, ils faisaient rien. Ils avaient droit d'écrire. Il y en a un surtout qui était une grande vedette européenne, qui s'appelait Balde, qui est un Alsacien, de la cour de Bavière, qui était lu à Paris d'ailleurs, hein, et c'est, même dans les salons, même son latin était lu encore à ce moment-là, et qui a passé toute une période. Ou alors on les nommait historiographes d'une cour, donc c'était une prébende, d'une manière, mais c'est vraiment une minorité. Donc globalement, ce sont des enseignants qui, pour une période relativement courte, écrivent des pièces pour leurs élèves, et naturellement pour les.
Jean-Pierre,
oui, je voudrais savoir s'il y a un interdit sur certaines autres mythologies que la Bible. Je pense aux Métamorphoses et de vie d'Apulée, je pense à Lucius, je crois qu'il étudie en latin aussi. C'est-à-dire, est-ce que la relation à la mythologie grecque est interdite?
Alors, oui, ça c'est une question évidemment très importante, parce que chez les protestants, on a pu pendant un certain temps, par exemple à Strasbourg, on a donné par exemple le Cyclope d'Euripide. Je suis protestant. Hein. Bon, chez les catholiques, j'ai pas de cas identique. Alors, pour répondre, qu'est-ce que c'est que les sujets et qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible, et pourquoi certains sont possibles alors qu'ils sont théoriquement impossibles? Au fond, c'est ça la question. Alors, qu'est-ce qui est normal? Bon, il y a pas mal de sujets d'Ancien Testament. Ça, c'est clair. Mais ça, c'est la tradition des humanistes catholiques, c'est la tradition des Néerlandais, c'est aussi la tradition des luthériens. C'est pareil. En particulier, il y a un best-seller, si j'ose dire, enfin, ou un best, je sais pas quoi, qui est l'histoire de Joseph, dans la Genèse. Parce que dans la Genèse, l'histoire de Joseph, c'est quand même une série d'épisodes parfaitement liés, c'est une histoire complète, c'est une histoire en images. Hein. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez à Klosterneuburg, une très très belle abbaye de Basse-Autriche, il y a un artiste qui s'appelle Nicolas de Verdun, qui est français donc, et qui a sculpté tout un retable en émail champ levé. Et c'est vraiment une histoire en images, hein, c'est-à-dire toute l'histoire de Joseph. Et à chaque épisode de l'histoire de Joseph, on a un épisode correspondant de l'histoire du Christ. C'est dans le puits, c'est le tridoum, hein, Joseph qui sort du puits, c'est la résurrection, Joseph qui est exalté au rang du vice-roi d'Égypte, c'est le Christ qui monte au ciel, etc. Vous avez tout ce schéma. Je vais revenir. Mais en tout cas, les sujets de l'Ancien Testament sont un autre sujet, c'est le sacrifice d'Isaac, la fille de Jephté. Pourquoi ? Parce que vous trouvez évidemment dans ces sujets des éléments qui vous permettent de faire allusion au Christ. C'est-à-dire, il ne faut même pas oublier que c'est l'ordre le plus christocentrique de l'histoire, d'ailleurs, en compagnie de Jésus, hein, le Christ, et la référence fondamentale. Et donc, il y a constamment cette idée, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le figurisme. Hein. Vous avez là-dessus le grand livre du père de Lubac sur les quatre sens de l'écriture, l'exégèse quadruple, qui est donc complètement à l'œuvre au théâtre, là, c'est clair. Parce qu'on ne peut pas représenter le Christ. Alors là, il y a une première interdiction, c'est qu'on ne peut pas représenter ni Dieu ni le Christ. Ah, des anges, on peut en mettre partout. Voilà, aucun problème. En plus, vous multipliez le nombre des anges, vous faites jouer une possible d'élèves. Hein. Donc c'est épatant, parce que les parents, ils sont contents plus. Enfin, c'est tout à fait classique. Et j'ai mes petits enfants qui font un peu de théâtre à l'école maternelle. Bon. C'est pareil, hein, on en met plein, il en faudrait un, il y en a trois. Quoi. Bon. Les diables aussi, naturellement, il y a beaucoup de diables. Hein. Pas toujours, d'ailleurs, plus le temps passe, moins il y en a. Il y a un raffinement littéraire qui fait qu'on élimine un peu ça. Mais il n'est pas possible, non, de représenter donc le Christ et Dieu le Père, a fortiori. La Vierge Marie, oui, par allusion, mais pas tellement non plus. Hein. Donc on a ce premier pan, Ancien Testament, relu à la lumière du figurisme, point de vue complètement catholique, de la lecture de l'Ancien par rapport au Nouveau, de la promesse par rapport à sa réalisation, du vieil Israël par rapport au nouvel Israël. Bon, ça, c'est complètement dans l'ordre. Le deuxième corps de personnages, ce sont les saints et les martyrs. On peut dire que là, alors ce qui pose d'ailleurs des problèmes d'écriture dramatique, ça, plus on y viendra, parce que c'est une vie de saint, hein, c'est pas une crise comme ça, on va dire. Donc on a ces saints et ces martyrs, avec chaque fois d'ailleurs aussi un figurisme, parce que non plus qui annoncent, mais qui suivent. Hein. Alors les hommes ont inventé post-figuratio, etc. Je ne sais pas si c'est nécessaire. L'imitation du Christ, ça suffit, il me semble, comme idée. Hein. La plus grande imitation étant le martyr, non pas recherché par provocation, mais subi par fidélité au Christ dans un contexte politique et religieux hostile. Alors ça, c'est une masse énorme de sujets. Et c'est d'ailleurs tout un pan, et j'ai travaillé pas mal là-dessus, tout un pan de l'histoire théâtrale européenne qui nous, chez nous, s'arrête avec Polyeucte et Théodore Vierger-Martyr. Parce qu'après, on n'arrive plus à en faire. Ben, il y en aura encore dans les collèges, il y en aura encore. Retrouve le fait en correction Saint-Genet. C'est un cas intéressant pour nous, pour l'acteur. Hein. Et comment hein. Mais après, au fond, le grand théâtre classique ne va plus vraiment représenter ça. C'est plus admis, soit que on veut laïciser le théâtre et donc on élimine ça, soit que on dit qu'il ne faut pas toucher à ces sujets parce que c'est trop religieux, on ne peut pas les profaner entre guillemets, sur la scène publique. Hein. Bon, je crois que c'est en gros les raisons en France, mais dans les autres pays européens, ça continue longtemps. Hein. La France est en position peut-être de pointe, elle est en avance hein, dans ce système-là. Voilà. Alors ça, c'est le deuxième type de sujet. Alors puis il y a tous les sujets moraux, alors qu'ils sont inventés et qui sont tirés de récits divers, édifiants et autres, qui fait que ben, on va condamner certains types de comportements. Et puis des sujets historiques. Alors là, c'est ça. Alors les métamorphoses, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment l'autre grande source poétique hein, de la littérature occidentale, hein, on pourrait dire. Non. Mais on joue parfois, alors surtout en Espagne, c'est extraordinaire, on joue sur les mots. Hein, par exemple, le dieu Pan, qu'on va mettre en scène pour la fête du Corpus Christi, Pan le pain. Alors, bon, ça donne des constructions, mais assez complexes. Hein. Et ça, c'est typique du XVIIe siècle. Ça, le XVIIe siècle produit sur la base du figurisme des constructions qui sont assez curieuses. Mais normalement, non. En revanche, l'histoire, oui. C'est un peu comme chez Corneille, tu vois, on peut utiliser énormément de sujets historiques. Surtout, évidemment, c'est des empereurs chrétiens. C'est-à-dire, il y a quand même l'histoire qui change. C'est-à-dire, il y a évidemment la venue du Christ qui change tout, mais il ne change pas tout dans l'ordre du politique. Parce que c'est aussi une réflexion sur, c'est aussi un travail, un théâtre de la cité. C'est pour ça que j'insiste beaucoup, pour dire que ce n'est pas seulement de la pédagogie. C'est aussi un théâtre de la cité, et il y a vraiment l'idée d'une rénovation du monde politique. Et qu'est-ce qui donne l'exemple? C'est Constantin, c'est Théodose, c'est Constance Chlore, c'est-à-dire les premiers grands empereurs de l'édit de Milan. D'abord, c'est une tolérance, mais enfin, ça devient de plus en plus un ralliement politique. Alors là, évidemment, vous avez toute la question politique, de l'opposition du pape et de l'empereur. Tout ça, ça apparaît aussi. Donc l'histoire joue un rôle très important. Puis il y a aussi des figures qu'on raccroche. Parce que, par exemple, Idoménée, moi j'ai trouvé des pièces sur Idoménée. Au XVIIIe siècle. Alors, a priori, je me suis dit, c'est un peu bizarre. Et ils interprètent encore, c'est-à-dire qu'ils finissent par endroit, par appliquer le schéma du figurisme à des sujets qui n'ont rien à voir avec la tradition chrétienne. Mais qu'on re-christianise. Voilà.
Combien de pièces conservées? Conservées, parce que je à votre avis, comme ça.
Alors, bon, le problème de la conservation, c'est que c'est un petit peu la question de l'auteur. Il y a d'abord très peu de pièces publiées. Et normalement, sauf quelques grands auteurs du XVIIe siècle, on ne les publie pas sous les noms de l'auteur. Quelque exception. Ou alors c'est toujours cum permissu superiorum. Il faut vraiment. En fait, c'est le théâtre de la compagnie. Là, on retrouve un peu la position du moine. Il est membre d'une collectivité, et c'est cette collectivité qui s'exprime en publiant. Donc il y a, je dirais pas une censure, mais on en réduit le nombre. Et d'autre part, on considère que ce sont des événements extrêmement transitoires et fugitifs. Un texte n'est normalement pas fait pour être répété. Il est joué 3-4 fois parce que, selon le public, on varie un petit peu devant qui on joue. Ça, c'est aussi intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui,
conservation.
Oui, la conservation. Alors, on en conserve, oui, parce que je pense qu'on se met. Bon, j'ai trouvé assez d'exemples. On se les repasse, de collège à collège. Voilà, il y a un qui est bousculé à un endroit, qui est assigné à son copain qui est à 30 ou 40 km, il dit « j'y arrive pas, j'ai plus que 5 jours pour finir ma pièce, puis il faut que je la fasse répéter par les élèves encore parce qu'il y a un travail de répétition. » Le « Einstudier », il faut quand même répéter les textes. Et alors, je me demande si par hasard, alors bon, il y a des pièces démarquées, etc., etc., mais alors, on a un certain nombre de manuscrits. Alors, tout dépend des pays. Est-ce que ça a été conservé ou pas? Les archives à Rome, non, pas énormément, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que l'ordre est divisé en provinces. Donc, c'est dans les provinces. Ouais. Donc, on va tout dépendre de la politique. Quand vous avez eu des sécularisations, on a confisqué ce qui était dans les couvents, dans les maisons. Donc, on en a gardé, on n'en a pas gardé, ça dépendait de la place, etc. Mais moi, pour l'Allemagne, je suis quand même arrivé à peu plus de 5000 textes quand même conservés sur les... Oui, si vous regardez l'ensemble, ça fait une jolie carte.
Voilà. Conservée.
Allemagne, conservée. Oui. Et alors, surtout, très important, mais ce n'est pas des textes qui... Des textes qui sont manuscrits, donc écrits en antiquaire, donc très lisibles, il n'y a pas de problème. Il y a très peu d'utilisation de l'écriture gothique de l'époque. Ce qui est très important, ce sont les programmes qu'on éditait, qui, eux, étaient imprimés pour chaque représentation et qu'on distribuait. Voilà. Juste terminer là-dessus. Et donc, ceux-là, comme il y en avait tellement, il y en a forcément qui sont conservés. Donc, parfois, on trouve 10 programmes pour une représentation, en fouillant bien dans les différentes archives. Voilà l'état.
Je vous en prie, Sophie Comte, oui, je vous en prie.
Concernant les pièces conservées et la langue latine, une question qui a été évoquée à un colloque l'autre jour, de savoir, parce que quand on lit ces pièces, le latin n'est pas forcément très facile à lire, même pour des spécialistes de nos jours. Et alors, la question que je poserais, c'est sur le degré de compréhension. Est-ce que les élèves qui jouaient ces pièces les comprenaient parfaitement? Est-ce que sur le niveau de langue et, parce qu'en fait, le problème du programme, C'était souvent, on distribuait le...
Ah, c'était en bilingue ou en trilingue.
Voilà, pour permettre...
Latin-allemand, si c'était à Prague, c'était latin-allemand-tchèque. D'ailleurs, les jésuites sont les premiers à utiliser le tchèque. Ah oui, c'est Balbin, c'est Balbinus qui donne la première grammaire du tchèque, c'est les jésuites. Hein. Presque toujours dans les régions, ils ont défendu, c'est une politique catholique qu'on a trouvée en Pologne aussi, c'est-à-dire l'identité par la langue a été soutenue toujours, hein, Pologne, etc. Oui, alors, donc, le programme, vous avez raison, donc il faut rappeler, il y a plusieurs langues. Bon, plus de trois, j'ai pas dû trouver, mais c'est assez fréquent, parce qu'avec l'Europe du centre, il y a forcément... les populations très différentes. Alors, les textes, le latin des textes. Alors, évidemment, il faut bien comprendre que c'est à la fois globalement cicéronien de base, mais d'autre part, les modèles sont évidemment dans Terence et Plaute, surtout Terence. Hein. Donc, un bon auteur, il arrive à placer 10 citations de Terence dans sa pièce, parce qu'en plus, ah, il y en a un là qui a compris, dans le public, il y en a qui a vu tout de suite, tiens, ça c'est Eauden tum Romanos, ou les curas, ou bon. Ils sont tout de suite dans le coup. Hein. Alors, d'autre part, il s'est passé un phénomène, c'est-à-dire que le latin de la Renaissance, c'est-à-dire des humanistes, des races, etc., c'est quand même pas du latin de Cicéron. Ouais, je veux dire. Donc, et ce latin, il va évoluer. Et il évolue selon l'influence des styles dominants. Parce qu'il y a, on dit toujours c'est Cicéron, ça c'est un désaccord que j'ai avec Marc Fumaroli, c'est que lui dit oui, c'est Cicéron, mais il y a, il y a ceux qui sont partisans du style augustéen, et puis ceux qui sont partisans du style post-augustéen, c'est-à-dire la latinité d'argent. Et là, vous avez qui ? Vous avez Sénèque, naturellement, qui arrive comme le grand modèle. Hein, le grand modèle. Shakespeare aussi. Hein. Et à ce moment-là, le latin change. Là, vous avez des périodes où il est parfois très difficile à comprendre. Je suis de votre avis, oui. Oui, surtout chez les grands auteurs, deuxième moitié du XVIIe siècle, c'est certainement là le plus difficile. Alors, qui comprend quoi ? Ça, j'en sais rien, j'y étais pas. Mais ce que je peux vous dire, que les élèves qui le jouent, en tout cas dans les grandes pièces, hein, dans les grandes pièces, voilà, avec les élèves, ils le préparent, ce texte. Un des grands problèmes qu'il y a à l'intérieur de la compagnie, c'est dire, oui, avec ce théâtre, disent les responsables à Rome, ou les recteurs, ou les provinciaux, ils disent, oui, mais alors ils passent leur temps à faire du théâtre, ils ne fichent plus rien, etc., etc. Alors on leur répond, mais si, ils se forment par le théâtre. Mais les conflits sont à l'intérieur, hein, donc il ne faut pas croire que ce soit tellement comme ça. C'est pas une caserne napoléonienne, encore je sais pas comment étaient les casernes napoléoniennes. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est difficile. Mais les élèves le préparent longtemps, hein, au moins 4 semaines, voire 6 semaines. Hein. Alors ils disent oui, mais quand ils jouent deux fois dans l'année, qu'est-ce qui reste ? Bon, effectivement. Hein. Plainte des parents, plainte, etc., etc. Alors donc ils le préparent vraiment bien. Le vrai problème, c'est la compréhension du public. Voilà. C'est la compréhension du public. Alors là, je pense qu'il y avait quand même beaucoup plus de gens qu'on ne le pense qui comprenaient vraiment bien le latin et qui le parlaient. D'abord, c'était leur langue d'administration, c'était leur langue... bon. Nous, dans les pays romans, on est passé plus vite aux langues vernaculaires. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Et quand vous sortez de là, c'est-à-dire l'Espagne en premier, hein. Ça c'est formidable, vous avez des textes en espagnol très très vite. Hein. Et tous les traités des grands jésuites sur le théâtre, Mariana et autres, Rebadeneira, sans traduire en espagnol tout de suite. En Allemagne, jamais. Ça vient progressivement au cours du XVIIe siècle. Où là, vous avez le latin qui recule et qui devient, au fond, une langue de spécialité, une langue technique du droit, la théologie, etc. Bon, philosophie. Voilà. Jusqu'à Baumgarten, qui écrit quand même son esthétique en latin en 1750. En 1750. La première esthétique. Donc, qu'est-ce qu'il savait ? Voilà. Il y a un gros point d'interrogation, mais... Alors, ça servait... On dit, ah, les femmes, oui, bon, elles en savaient encore moins. Encore qu'il y ait eu un enseignement catholique pour les femmes. Ce sont les catholiques qui inventent l'enseignement. Hein. Malward, c'est une anglaise catholique qui invente ça. Voilà.
Alors, nous sommes en train de glisser doucement vers les questions du jeu. Voilà. Je retiens un tout petit peu encore pour ne pas... Parce que si sur le premier aspect, parce qu'il y a beaucoup de questions factuelles qui sont là, sur le premier aspect, disons, plus largement informatif, il y a Saül, Laura, Saul, Antoine.
Est-ce qu'il y a une réflexion déjà proprement esthétique chez les jésuites ?
Oh, comment ?
C'est-à-dire, peut-être, quel est le rôle de la boutique d'Aristote d'abord,
ouais.
Et peut-être aussi... le texte longin.
Voilà.
Qui circule en manuscrit, je sais, déjà dans le 16e siècle, en Italie surtout. Mmh.
Alors, oui, c'est une très très belle question, qui est selon mon cœur. Parce qu'au fond, vous parliez tout à l'heure de Brecht, mais bon, on ne peut pas assimiler. Hein, mais, et puis, je n'y connaissais probablement rien. Mais, en revanche, toute la question d'aristotélisme, c'est à mon avis une grande question qui court à travers tout le théâtre occidental depuis le 16e siècle, c'est clair. Deuxième point, c'est part d'Italie, c'est clair aussi. Hein. C'est-à-dire, y compris la traduction commentée par Castelvetro, hein, la Poetica d'Aristotile vulgarizzata, qui est, c'est-à-dire tournée en langue vulgaire, hein, elle n'est pas vulgarisée, mais elle est tournée en langue vulgaire, pour dire l'italien, et puis Robertel, Minturno, etc., tous ces sont lus par les théoriciens jésuites très attentivement. Ça, c'est un point tout à fait important. Les premières poétiques dans le monde germanique, c'est fin 16e. Et ça repose. Hein, ça repose sur les données des Italiens. Alors, que ces données soient conflictuelles, je suis bien d'accord. Mais il y a un vrai discours sur la poétique d'Aristote. D'ailleurs, on ne comprend rien non plus à Corneille, pourquoi il se bat, pas seulement contre les trois hein, de l'institution. Mais parce qu'il hérite lui-même, de par sa formation au collège de Rouen, hein, il a une grande familiarité avec ces débats. Et avec Heinz Hus, qui lui, c'est toi à nouveau du côté des protestants, a quand même donné le De Tragedia Constitutionnelle. Hein. C'est-à-dire que les jésuites s'inscrivent parfaitement dans la réflexion occidentale sur la poétique. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça, c'est la question. Hein. La première question, c'est que ça donne à leur théâtre un statut, je dirais, hein, une distinction, dirait l'autre. C'est-à-dire, ça les situe à un niveau qui est un niveau de lettré. Si on peut parler d'Aristote et justifier ce qu'on fait au nom d'Aristote ou en se démarquant d'Aristote, ça c'est un point très important. Ça, il est clair que c'est ça. D'autre part, ils en ont besoin parce qu'ils ont une double vocation, vous dites, pédagogique, morale, éducation, etc., qui au fond se passe très bien à Aristote, à la limite. Hein. Et en même temps, un certain grand théâtre qui voudrait prendre la place de tout le théâtre. L'ambition est énorme. Hein. Il s'agit bien de chasser le théâtre professionnel, le théâtre littéraire qui ne parle pas de la religion, ou qui ne fait pas de la religion son cœur. Ça, j'y tiens beaucoup à ce point, parce que là aussi, souvent, c'est pas bien compris. Hein. Disons, c'est pas pris au sérieux. Alors, ça peut paraître complètement mégalomaniaque, si on veut, mais c'est un grand projet de rénovation complète du théâtre. Hein. C'est pire qu'Artaud, je dis Artaud c'est résiduel, mais c'est vraiment un projet culturel une dimension énorme. Hein. Et alors là, il faut naturellement avoir des règles et essayer d'établir des principes. Et en gros, ils ne sont pas à l'aise avec Aristote, tout en s'en sortant. Parce que par exemple, le héros moyen, ça ne colle pas. Les mezzi caratteri, les mich caractères en allemand, etc. On a besoin, c'est de montrer des grandes crapules, c'est les rats qui sont punis par la justice immanente qu'on voit rôtir dans le feu de l'enfer. Ça, bon. Et d'un autre côté, on a besoin d'exemples d'humanité extrême, tendant vers cette imitation du Christ dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la perfection. Alors ça, c'est pas quotidien avec Aristote. Alors, puis les aspects techniques, j'évoquais tout à l'heure, si on veut une vie de saint, et comment la réduire à la crise et aux événements classiques enfin de la tragédie, de la dramaturgie aristotélicienne. Ça, on a beaucoup de difficultés. Mais quand même, c'est intéressant de voir qu'il s'y réfère tout le temps, et jusqu'au XVIIIe siècle, hein, il y a des traités en latin, surtout en latin, normalement, ou en italien. En Italie. Parce que vous avez un cas qui est extrêmement important, qui est celui de Tarquinio Galuzzi. Ah, pardon, j'étais mis juste là.
Laurence, parce que c'est une question vraiment Je voulais juste savoir, est-ce que les Allemands lisent Aristote vraiment à travers les commentateurs italiens ou aussi à la lumière des commentateurs français? Parce que c'est pas tout à fait la même interprétation.
Alors, oui, non, la réponse est. Là, je peux la donner, je l'ai. Pour ce qui est du 16e siècle, du début du 16e siècle, ce sont les Italiens.
D'accord. Et ensuite
après, c'est-à-dire au moment des combats avec Gottsched, avec Lessing. Oui. C'est-à-dire la tentative de constitution d'un théâtre qu'on appelle national allemand. Donc avec professionnel, hein, un théâtre professionnel, avec des scènes fixes, avec des troupes constituées, dont on a l'héritage aujourd'hui. C'est encore un pays qui a des troupes attachées au théâtre, par exemple. Beaucoup plus que chez nous, ça n'existe pratiquement pas. Pour les Françaises, là. Hein. À ce moment-là, ça c'est un débat surtout avec les Français. Hein. Ouais. Mais donc, Aristote est quand même là. Hein, je veux dire, oui, comment les Français ont compris Aristote? Tout le débat de la dramaturgie de Hambourg, ben, le cœur poétologique, c'est d'attaquer la lecture que donne Corneille, notamment dans son deuxième traité, dans le traité de la tragédie, qu'il donne d'Aristote. Et de dire, nous, on est des philologues sérieux. Hein, tout ça, c'est français. Il procède, et puis il parle de l'élégance. Non, mais il faut lire les textes. C'est la tradition philologique allemande qui est tout à fait importante. Hein. Et ils disent, à ce moment-là, c'est faux. Mais ils n'ont pas tort, les signes de dire que c'est faux. Hein. Corneille tire Aristote dans un sens qui lui convient. D'ailleurs, il lui dit lui-même, parce qu'il écrit ses textes après avoir écrit ses pièces, pour se justifier. Hein. Tandis que Lessing et les autres, avant. Mais là, c'est ou Dacier, ou tous ces auteurs-là, sont très très lus par les Allemands.
Ouais. D'accord. Donc il y aura une influence du théâtre jésuite sur le théâtre non-jésuite, finalement.
Ah ben oui, parce que... Oui, mais le dernier livre que j'ai publié, j'ai rassemblé des études... Et j'ai appelé l'école, la ville, la cour pour réunir, non pas dans la tradition française de la ville et de la cour, mais le collège, hein, les troupes ambulantes et le théâtre aristocratique, hein, qui sont les trois grandes formes. Et j'ai aussi tenu compte du fait que dans le monde germanique, il y a trois langues du théâtre. Il y a l'allemand, bien sûr, il y a le latin, néo-latin plutôt, je veux dire, et l'italien, comme langue de l'opéra. Hein. Alors, on ne peut pas séparer l'opéra du théâtre dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, ça c'est parfaitement clair. Donc il faut voir, je crois, moi j'ai une position assez systémique là-dessus, c'est-à-dire il faut voir l'ensemble parce que ça se joue comme ça dans les interrelations. Hein. Mm-hmm. Mais qu'on ait connu le théâtre des jésuites chez les non-jésuites et qu'on les commentait, qu'on les utilisait, c'est vrai. Mais vous avez un exemple fantastique en France, on ne parle jamais, c'est le père Brumois. Qui est quand même le premier à déterrer les textes grecs de façon systématique en 1730, ça s'appelle Le théâtre des Grecs. Hein. Il y en a trois ou quatre énormes volumes avec des traductions, des commentaires, des résumés, etc. Et il est où? Il est quoi? Et ben, il est prof de rhétorique à Louis le Grand. Et toute l'Europe lit Lessing, lit tous les Allemands lisent Brumois. Le retour aux Grecs se fait là vraiment. Hein. Alors évidemment, il y a eu des lectures, mais bon, voilà.
Laura,
Oui, alors c'est une question à laquelle vous avez un tout petit peu répondu. C'est quand vous avez parlé du projet de rénovation totale du théâtre. Mmh. C'est une question qui m'est venue quand vous avez parlé de la question de la représentation du Christ. Et juste un point historique, en fait, quelle est l'articulation entre ce théâtre des jésuites, donc théâtre, si j'ai bien, enfin, je veux dire, amateur, en fait, avec le théâtre des mystères, enfin, avec toute la pratique des mystères et des confréries.
Oui. Bah, globalement, vous savez que au XVIe siècle, alors je crois que l'arrêt du Parlement de Paris, chez moi, je ne suis pas spécialisé des littératures françaises, mais quand même un petit peu, est de 1548, hein, l'interdiction. Alors, ça vaut ce que ça vaut comme date, parce que, bon, il y a des choses qui continuent, il y a des confréries, comme vous l'avez rappelé, qui existent dans différents endroits, je ne pense pas que ça s'applique comme ça directement sur le territoire. D'autre part, il y a déjà pas mal d'endroits où c'était terminé depuis longtemps. Hein, c'est-à-dire que plus vous montez dans les cercles, plus vous faites une montée du point de vue culturel, moins on s'occupe de ça. Hein. Donc on peut considérer... Alors, oui, la question est intéressante, parce que un des moules qu'on a tenté, c'est encore en Italie, hein, parce que c'est quand même important là, c'est la Sacra Representazione, hein, qui, à l'origine, est quand même une représentation du Christ. Et vous avez un type qui s'appelait Tuccio, qui était un Sicilien, je crois, qui a écrit une trilogie, hein, sur le Christ, en latin, en trimètre iambique. Eh oui, parce que si vous vouliez lui donner une légitimité, il fallait bien passer par la forme. Ça, c'est aussi le problème des moules. Qu'est-ce qu'on met? Dans quoi on va verser ça, hein? Alors, en trimètre iambique, et... Christus patiens, Christus nascens, et je crois Christus triumphans, ou je ne sais plus, resurgens, hein. Il y a trois pièces en tout cas. Et une des trois a été jouée à la cour papale, en présence du pape et du sacré collège. Mais ça n'a pas de suite. Et ça, ça se passe vers 1570-73, par là. Ça n'est pas de suite. Parce que c'est pas possible, quoi. Devant le pape, on peut encore jouer le Christ, mais ailleurs, il y a beaucoup trop de résistance même à l'intérieur. Et puis, devant, on se dit, bon, évidemment, on va toujours faire la même chose. Hein, on n'a pas les confréries, on peut faire ça en très beau latin, parce que c'est un très beau latin, des humanistes italiens, mais c'est sans avenir, hein, c'est un cul-de-sac. Et alors, c'est là qu'on voit apparaître les tentatives de création de ce qu'on appelle une tragédia christiana, hein, une tragédie chrétienne. Je vous rappelle que pour Polyeucte, c'est encore une de ses désignations par Corneille, hein, la dernière probablement dans la littérature française classique, hein, une tragédie religieuse qui est en écho la présence du Christ, mais le Christ n'est jamais là, hein, d'où les martyrs, etc. Je crois que la fortune d'une reine de martyrs en Europe est liée essentiellement à ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ce que vous voulez.
Bien. Alors, si vous voulez bien, nous allons peut-être un peu basculer et aborder le deuxième pan de notre rencontre, puisque ce pan-là, sans nous pourrions encore, il est sans fin.
Oh, on fait des séjours de Paris, là.
Surtout avec vous. Alors, notre question est comme ça très massive et très simple, trop simple sans doute au point de départ. Qu'est-ce que ces gens attendent de la formation par le théâtre ou grâce au théâtre sur ceux qui la pratiquent, hein, en oubliant un instant, même si c'est une suspension provisoire, les effets supposés sur ceux qui font simplement que les regarder. Il semble bien que le plus grand temps consacré soit quand même au fait de faire pratiquer le théâtre, qui est au moins une de ses finalités, peut-être pas la seule, mais au moins une de ses finalités soit pédagogique ou formatrice. Alors, de quoi s'agit-il, si on rentre un peu plus précisément dans la chose? Qu'est-ce qu'on en attend? Et d'abord, comment sait-on? Sait-on quelque chose? Y a-t-il eu un discours sur ces objectifs de formation? Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce que la valeur, disons, de formation, et donc, en gros, ce que nous cherchons, nous, derrière cet intérêt historique qui, sommes tous très curieux, c'est... comment ça se passe? Quel effet est supposé être produit par le théâtre, par l'activité de jouer, mais je mets peut-être le mot jouer justement entre guillemets pour l'instant, quel effet est produit par l'activité de jouer sur ceux qui jouent?
Oui. Bon, j'ai essayé de fonctionner parce que c'est assez vaste, mais c'est vrai qu'il faut revenir à quelques problèmes de base. Alors, vous avez raison. C'est d'abord lié à l'enseignement. Je l'ai dit, mais ça, il faut bien se le rappeler. Et c'est lié à la rhétorique. Par conséquent, c'est bien l'exercice de la memoria. Ça, c'est clair. Hein. C'est bien l'exercice de la memoria, qui n'est pas seulement la mémoire générale, mais aussi à travers les textes, naturellement, le contact avec d'autres textes, et donc la mémoire culturelle, etc., etc. Alors, ça, c'est tout à fait formateur, capital, dans la perception de l'époque, peut-être un peu différente de ce qu'on veut aujourd'hui, de ce qu'on cherche, mais enfin, c'est quand même une constante. Je pense que c'est pas du tout une chose à négliger, c'est même vraiment assez fondamental. Alors, par exemple, vous avez parlé, est-ce qu'il y a des textes? Oui, il y a d'abord un texte qui était d'une gestation très longue, qui s'appelle Ratio Studiorum, hein, donc ce guide des études, hein, qui n'est fini, qui n'est terminé qu'à la fin du XVIe siècle, hein, après de nombreuses étapes antérieures, on réunit des commissions, personne n'est jamais d'accord, etc., etc. Et en même temps, c'est plutôt un aboutissement de discussion, ça a un caractère prescriptif, mais il ne faut pas le prendre à 100%, hein, comme tel. Hein. Ça fixe plutôt des règles, des principes qui se sont décantés au fur et à mesure de la pratique. Ça, je tiens beaucoup à ce point, parce que selon les provinces, on va appliquer les règles de façon différente. Alors, il y aura des règles spéciales pour les Rhénans, les Bavarois, les choses romaines, pas comme ça, chez nous, on arrange ça autrement, les Français sont toujours à part, toujours plus ou moins opposés au pape, donc même chez les Jésuites, hein, ne croyez pas qu'il y ait des traditions culturelles comme ça qui sont très prégnantes. Donc, exercice de la mémoire, et le ratio studiorum, donc rappel, j'avais... ce petit passage-là, exercice quotidien de la mémoire qui est nécessaire aux rhétoriciens. Et que dans cette classe, les prélections se prolongent souvent trop longtemps pour pouvoir être retenues facilement de mémoire. Donc le professeur doit fixer lui-même la nature et la longueur de la leçon à prendre et comment il faut la réciter s'il veut le faire faire. Donc on trouve cette idée de récitatio, hein, qui n'est pas encore du jeu dramatique, mais qui est quand même une production d'oralité. Hein, c'est quand même une culture de l'oralité, fondée sur l'oralité. Bon. Deuxième chose, toujours dans le même système, c'est l'actio, pronunciatio, rhétorique, c'est-à-dire que le corps est un élément important. On apprend la prestance, on apprend la manière de se présenter, on apprend la manière de parler à autrui, selon la règle du prépone aristotélicien, c'est-à-dire on dit ce qui convient, hein, le décorum de Quintilien, l'aptum de Cicéron. Hein. C'est-à-dire, bon, dans toutes les situations, il faut être capable d'adopter l'attitude qui convient. Et en même temps, c'est une attitude qu'on apprend comme liée à l'espace spécifique, hein, de l'aire de jeu. Parce que ça, c'est important, vu qu'on la constitue déjà dans les classes. Hein. Donc ça, c'est vraiment les premières règles pédagogiques. Alors maintenant, il y a évidemment la règle religieuse, spirituelle, je dirais, qui va vers une intériorisation, vers un approfondissement de la spiritualité, c'est-à-dire en jouant, ils doivent renvoyer à eux-mêmes ce qu'ils sont en train de jouer normalement, hein, soit dans le bien, soit dans le mal, etc. Et une des formes dont on parle peu, qui est plus tardive, mais même qui est la méditation, hein, où le jeu est lié aussi, n'est pas lié à une production de mouvement, même de parole, oui, mais pas de mouvement, mais on médite devant des scènes, des tableaux vivants, etc. Donc il y a tout ce qui est évidemment la méditation sur les images, bon, tout ça c'est très typique de cette spiritualité, hein, le rôle de la peinture, etc., et des emblèmes, hein, qui sont sur la scène, etc. Mais en tout cas, il y a cette fonction de spiritualisation, d'intériorisation, qui est guidée et qui est au fond vraiment jésuite ici, parce qu'elle est dans l'esprit des exercices spirituel, on n'a pas dit le mot encore, des exercices spirituels du fondateur, Didier de Loyola, des Geistlichen Übungen, des Exercitia Spiritualia, qui est un des grands, grands textes, et qui sont un des grands moyens d'apostolat, hein, donné. Alors peut-être pas dans les campagnes ou autres, mais dès qu'on est bien installé, on donne les exercices. Hein, on a des exercices. Et le théâtre, au fond, sa légitimation, il est institutionnel, il est pratique pédagogique, il est de rivalité avec d'autres ordres, tout ça c'est parfaitement clair, mais il est aussi lié, sa possibilité à l'intérieur de la compagnie est liée à cette tradition de la méditation où on imagine des lieux, où on imagine des personnages qui bougent, etc. Ça c'est un texte absolument fondamental, hein, l'exercice spirituel. Donc à travers ça, il y a un progrès spirituel dans la pensée de ces hommes-là qui est absolument donné comme un objectif ultime, hein, qui n'est pas nécessairement prioritaire, parce que il y a toujours une manière de composer avec la réalité matérielle qui est très forte chez les jésuites, c'est-à-dire qui les distingue de beaucoup d'autres ordres, hein, et qu'on leur a rapproché naturellement. Hein.
Deux questions sur ce dernier point. On va revenir, si vous voulez bien, tout à l'heure, probablement à la mémoria, à l'axio. Mais sur ce dernier point, sur l'intériorisation, deux questions très différentes, si vous me permettez. Premièrement, lorsqu'il s'agit de représenter, ou d'incarner, je ne sais pas comment on peut dire, mettre en action une conduite noble, une conduite élevée, une conduite... Et le fait de la jouer permet de l'intérioriser. Est-ce qu'on a une idée, est-ce que la question s'est jamais posée chez eux, est-ce qu'il y a la moindre réflexion ou embryon de réflexion sur ce point, sur comment ça marche, c'est-à-dire comment ça marche le fait que dire ou mettre en jeu ou mettre en action une conduite produise un effet d'intériorisation. Et ça m'amène à ma deuxième question qui est un peu différentielle: qu'est-ce qui se passe quand on joue le mal? C'est-à-dire, puisque est-ce qu'on qu'est-ce qu'on intériorise à ce moment-là? Est-ce qu'on intériorise le mal, la défense? Puisqu'il y a des personnages, vous dites, nombreux ou des figures nombreuses qui sont...
allégoriques aussi, oui, bien sûr.
Qui sont des figures du mal. Ouais. Comment ça marche, la formation, dans ce cas-là?
Votre question est un peu diabolique. Parce qu'elle met évidemment le doigt sur quelque chose de très important, qui est la matière à débat constamment à l'intérieur. Et on parlait de prescription, etc. Donc, je disais, il y a quelques textes à Radio Studio, mais il y a énormément de traités sur le théâtre qui parlent de cette question. Alors, comment ça se passe? Ça, c'est évidemment... On a toujours un peu la même description générale, n'est-ce pas? Retour sur soi-même, contemplation des malheurs ou des béatitudes éternelles, etc. Tout à fait dans l'esprit des exercices spirituels. Pourquoi j'insiste toujours beaucoup sur ces exercices spirituels, peut-être moins comme si c'était la seule, la seule structure de base, mais c'est vraiment la référence spirituelle fondamentale. On a toujours cette idée-là. Imaginez ce qui vous arrive si. Donc il y a quand même le doigt levé, l'index levé constamment, comme on dit en allemand, pour ces acteurs comme pour les spectateurs d'ailleurs, parce que là, pour le coup, les deux intentions se rejoignent. Donc c'est vraiment le retour sur soi, c'est le repentir. Alors là, vous avez tout le langage que vous avez qui entre massivement, probablement aussi d'ailleurs contre certaines idées de la Renaissance, contre les affirmations de la vie réelle, du plaisir, etc., et qui sont très fortes en Espagne. Il ne faut quand même pas oublier que les fondateurs de l'ordre sont des Espagnols, puis évidemment des Basques, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a des Basques ici, mais disons qu'il y a un côté de discipline intérieure qui n'est pas sans analogie avec une certaine discipline militaire, une discipline du corps et une discipline de l'âme, etc. C'est une donnée tout à fait importante. On attend vraiment des élèves que ce soit pas passé comme ça, c'est évidemment un autre problème. Mais c'est vrai qu'il y a cette attente. Alors, on joue des personnages de différentes natures, n'est-ce pas, comme je vous ai dit, et vous avez raison. D'abord, on peut jouer une allégorie. Alors, si on joue une allégorie, c'est pas compromettant, parce que l'allégorie, elle est extérieure à la personne. Vous portez, au XVIe siècle, d'ailleurs, les acteurs portaient des bandeaux sur le front pour dire « Justitia » ou etc. Ou « Voluptas » ou bon, peu importe. Mais là, ils étaient bien identifiés comme... Or, ils portaient, c'est un sandwich, si vous voulez, on porte une signification qui est donnée pour les autres.
Ça, c'est du chose, je tiens.
Évidemment, naturellement. Mais prenons les autres rôles. Alors, vous avez rappelé, et je disais tout à l'heure, on aime les personnages excessifs, enfin extrêmes. Donc, contrairement à ce qui est dans Aristote. On est personnages extrêmes, donc on a des saints, c'est plutôt aisé à jouer, parce que c'est flatteur, etc. Et puis, il y a les criminels, il y a des tas de légendes qui sont... Vous savez que c'est sur le théâtre Jésus qui apparaît, c'est le premier Don Juan. Ah oui, le Leoncius. Tingostat, ça doit être 1600... Je ne veux pas dire de bêtises. 1609, Leoncius. Bon, toute la recherche sur le mythe de Don Juan a bien retrouvé ça. Sauf que là, il assiste à son propre enterrement. Il voit passer l'enterrement à Ulysses qu'on enterre, c'est toi. Bon... Ah là, c'est évidemment tout à fait l'esprit des exercices, à mon avis, qui est repris. Mais donc, on peut jouer des scélérats, des criminels, des tyrans, toujours la dimension politique. On a quand même des moyens dans la structure des pièces pour démarquer l'acteur du personnage qu'il joue. Il ne faut pas oublier non plus que c'est un théâtre qui n'est pas celui du XVIIIe siècle, même chez Diderot, où on veut maintenir du Viertelwand, la quatrième paroi. Diderot en parle, il faut absolument maintenir l'illusion, parce que si vous voulez qu'il y ait un effet de l'émotion et de l'identification, il faut maintenir l'illusion. Les signes redisent strictement la même chose. Quand vous regardez l'histoire du théâtre avant, au XVIe, XVIIe siècle, d'abord il y a des prologues et il y a des épilogues. Il y a parfois des épilogues après chaque acte. C'est ce qu'on trouve dans les thèses avec les conclusions partielles, d'étapes. J'ai horreur de ça. Enfin, c'est... Puis on n'avait pas compris. Là, on bombarde avec. Bon. Alors, on fait ses conclusions. C'est ça. Hein. Parfois, ça prend la forme de cœur, hein, entre les axes. Hein. Ça prend la forme de cœur. Et le cœur, alors lui, il est vraiment dans son rôle du commentaire, au fond, comme aussi dans la tragédie antique. Mais au lieu de dire, comme dans Antigone, hein, on a bien parlé ici dans les deux sens, on ne sait pas très bien qui a raison, donc on va à un conflit, donc il ne faut pas, il faut que de toute façon il se termine mal. Bon, on est dans la tragédie. Ici, on dit, ah, celui-là, il est en train de mal s'orienter. Hein. Vous avez une invention catholique qui est superbe, qui est l'ange gardien. Bon, je trouve c'est formidable, parce que au théâtre aussi, c'est très très bien. Ange gardien, pareil. Alors, vous avez un grand personnage, vous avez Tselodoxus, probablement la meilleure pièce du théâtre jésuite, qu'essayer de réécrire au point de stade. Il n'y est pas arrivé, parce qu'évidemment, on ne peut pas déterrer tous les cadavres qui passent. Hein. Et avec Tselodoxus, c'est un professeur de droit de l'université de Paris. Et il fait le bien, de façon très ostentatoire, etc. Tout le monde dit c'est un saint. Alors on l'enterre, font une grande cérémonie, etc. Malheureusement, à la fin de la cérémonie, il se lève, sort de son cercueil, il dit Damnatus sum. Hein, et trois fois. Alors ça a un effet formidable. Hein. On dit comment est-ce possible que ce type était là. Alors, on a appris qu'il avait triché, qu'il avait menti, que c'était l'hypocrisie, etc., etc. Bon. Mais ce qui est pendant la pièce, il a pourtant été mis en garde. On est chez catholiques, il faut quand même dire, on vous a bien prévenu. Hein. Et on invente l'ange gardien, qui est Tselodoxophylax, donc l'ami de Tselodoxus, qui vient lui dire, attention, arrête-toi, change de direction, etc., etc. Donc, on utilise des éléments structurels, hein, non plus lié au rôle lui-même, le rôle reste lui-même. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, du point de vue de l'écriture théâtrale. Donc, et on est des éléments de structure, de présence de personnages, d'avertissement, alors quelquefois ça peut être des choses qui descendent du ciel, avec des affiches, des emblèmes, etc., n'est-ce pas, des devises, qui en plus exercent l'esprit, naturellement, hein, et qu'il faut déchiffrer, hein, mais qui vont toutes dans le même sens. Hein. Le personnage est sur la mauvaise voie, il devrait faire attention, il devrait se corriger, il devrait revenir sur lui-même, etc., etc. Rentrer en lui-même, examiner, bon. Alors, on est obligé, vous voyez, question est évidemment taille, parce que beaucoup de, dans l'Église catholique, on dit, à commencer par Bossuet, hein. Il dit, c'est extrêmement dangereux, ce théâtre. Hein. C'est extrêmement dangereux dans les maximes et réflexions. C'est extrêmement dangereux et il faut pas du tout jouer. Il y a du théâtre où il n'y en a pas. Hein. On ne peut pas faire une exception pour le théâtre religieux et surtout pas pour les jésuites qui n'aiment pas. Bon. Et la raison, elle est essentiellement là. C'est le risque d'identification. Vous comprenez, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils ont très très bien compris qu'il y avait un problème d'identité de l'acteur par rapport au rôle. Hein. Alors, comment il met une distance, etc., etc. Alors, on sait qu'un certain nombre d'acteurs sont devenus jésuites, par exemple. Une manière de conversion idéale à l'intérieur de la compagnie. Mais on ne sait pas très bien ce que sont devenus ceux qui ont interprété des rôles de brigands, de bandits ou de tyrans. Mais je crois qu'il y a un dispositif, si vous voulez.
Parce que si vous me permettez, c'est en faisant évidemment de façon très anachronique, hein, et en poursuivant une réflexion qui est celle de vous, voilà, Bossuet, que vous évoquiez, puis bon, de Nicole, et qui poursuit chez Monsieur Rousseau, qui Rousseau, lui, évidemment, dit que la raison n'est bonne à rien sur la scène, c'est-à-dire qu'en fond, on ne peut jouer, au fond, presque en un certain sens, que le mal, et que c'est bien le mal qui est présentable. Présentable. Et donc, il y a la condamnation intrinsèque de l'activité d'acteur, et plus encore de l'activité d'actrice, vient du fait qu'il y a une espèce d'inclination vers le passionnel direct, et donc vers le négatif.
Absolument.
Et donc là, ça s'inscrirait en faux, et il y aurait une possibilité de présenter, de représenter.
Ah oui, mais c'est même, je dirais, la matière principale de tout leur développement en faveur du théâtre. Hein. Et notamment en Espagne, parce qu'en Espagne, je crois que c'est en 1598, il y avait eu, à un moment donné, interdiction des spectacles. Bon, ça n'a pas duré comme en Angleterre, ça n'a pas été le 17e, mais donc à la fin du 16e siècle. Et aussitôt, on voit sortir, 1599, Mariana, le grand Mariana, qui a fait beaucoup de bruit, puisqu'on a brûlé son livre, vous savez, Paris, sur le parvis du Parlement, parce qu'il avait plus ou moins donné raison à Jean Châtel, dont son attentat, etc., etc., ou Clément pour Henri III, et puis on va dire après, ah oui, mais c'est eux qui ont excité Ravaillac pour le meurtre d'Henri IV. Alors, le dit Mariana, donc, dès l'année suivante, dès 99, publie un texte qui s'appelle « De spectaculis ». Et ce « De spectaculis », c'est un titre qui rappelle aux gens qui ont fréquenté un peu les pères de l'Église que des Tertulliens avaient appelé son grand traité sur le spectacle « De spectaculis ». Or, Tertullien, c'est clair, c'est contre. Alors là, c'est le monde de la corruption totale, mais corruption de l'âme, c'est pas seulement morale. C'est le monde du diable, pompa diaboli, toutes les grandes expressions qu'on utilise viennent de lui. Lactance aussi, mais c'est surtout quand même Tertullien. Alors il le reprend et il dit, ah oui, alors là, il a absolument raison, mais ça vaut pour les acteurs professionnels. Vous comprenez ? Ça vaut pour les acteurs professionnels. Et ce qu'il faut, c'est que, et il reprend d'ailleurs ses développements, de fait, ramassé dans un livre qui s'appelle De Rege et Regis Institutione, qui est postérieur de quelques années. Je crois que ça s'appelle encore des spectaculistes, ce chapitre. Et qu'est-ce qu'il dit ? Ben, c'est à la cité de s'organiser. C'est-à-dire que le théâtre n'est possible que dans une cité idéale, dont l'esprit des jésuites serait au fond la base, et que suivraient les princes eux-mêmes. C'est-à-dire cette adresse aux princes, tous les traités, tous les grands traités sur le théâtre des jésuites sont des traités politiques. C'est au prince à donner. On est en Allemagne avec le Ferdinand II qui était le chef de la Ligue catholique dans la guerre de 30 ans, qui est devenu empereur, donc, etc. Il a fait la même politique, mais il y a des recommandations de jésuites qui vont tout à fait dans le même sens. Il faut vraiment que. Il y a bien rénovation, rénovatio mundi, il dit souvent. Rénovatio mundi. Suppose rénovatio hominis. Rénovatio rei publicae. Ça, c'est l'emboîtement. Et le théâtre, il est là dans sa fonction. Alors, si on ne le considère que selon la tradition, alors oui, Tertullien a raison. C'est quand ils disent, oui, il a absolument raison. Le problème, c'est que nous, on fait autre chose. Ils ont voulu vraiment aussi une rénovatio théâtrice. Si ça existe, c'est une rénovatio théâtrice. On va rénover le théâtre pour en faire le grand instrument d'éducation de cet homme, je n'ose pas dire nouveau, parce que ça a pris... Enfin, c'est déjà chez Saint-Paul, quand même. Donc, on peut reprendre, peut-être, cet homme nouveau et de cette forme nouvelle de culture qui est là.
Et ça, c'est lié au fait de passer de l'acteur professionnel à l'acteur non voilà. professionnel.
C'est pour ça que je tiens beaucoup à la distinction. Quand on lit les traités sociaux, il faut bien regarder que ce qu'ils condamnent, eux, les jésuites, et ils les condamnent, virulemment, ce sont les troupes professionnelles. D'abord, ils disent, alors vous avez des aspects sociologiques intéressants, ils disent d'abord, regardez, ils bougent tout le temps, ils sont itinérants. Donc vous avez quand même toujours l'hostilité du sédentaire vis-à-vis du nomade. C'est peut-être un invariant culturel, mais il est très marqué à ce moment-là. Quand on se rappelle, je crois que c'est Pompée qui à Rome a édifié un théâtre fixe, qu'il a d'ailleurs appelé Templum Veneris, temple de Vénus, dédié à la déesse Vénus. Et quand il a fait ça, il dit les jésuites, ah, mais alors là, si vous les stabilisez, c'est encore pire, parce qu'ils sont au milieu de la cité. Ils vont la corrompre. Alors, à la limite, ils acceptent qu'on les mette complètement aux marges. Mais surtout, ne les jamais laisser entrer, ni dans les cours, ni dans les villes. Ça, c'est clair. Toutes les recommandations qu'ils adressent aux princes, que ce soit des Allemands, des Espagnols, j'ai moins d'exemples italiens, mais la littérature espagnole est particulièrement vigoureuse, ce côté-là, plus encore que les Allemands. Mais souvent, les Allemands reprennent les Espagnols, plus qu'on ne le dit pour la polémique, etc. Alors, ils disent à ce moment-là, oui, c'est... Voilà, on peut pas les tolérer de quelque façon que ce soit. C'est nous qui avons le peuple de théâtre. Et c'est nous qui savons ce qu'est le théâtre et qui lui redonnons sa vraie fonction. Ouais, c'est vraiment un grand projet culturel.
Je suspends mes questions qui sont nombreuses et qui se pressent, mais je veux laisser la place aux autres si vous voulez bien. Laura, vous dites quelque chose ?
Oui, c'est bon, Laurence. Oui, c'est dans la lignée ce que vous voulez dire. Du coup, l'acteur, c'est qui ? C'est un jeune garçon qu'on éduque toujours enfin,
oui.
Forcément.
Oui, ouais. Alors, puisque on centre sur cet aspect-là, évidemment, qui est tout à fait important, c'est d'abord l'éducation d'une jeune personne. Oui. Il n'y a pas d'acteur professionnel auquel on fait appel, sauf, bon, je n'ai vu que quelques cas rares, parfois des jeunes gens qui sont sortis du collège, mais qui étaient particulièrement bons en scène. Alors, on les fait revenir en fin d'année. Ça arrive. Hein. Ça arrive. Bon, il y en a qui sont plus doués que d'autres, on utilise des compétences. Auquel cas, d'ailleurs, on fait des concessions à d'autres points de vue et à d'autres soucis, à d'autres préoccupations. Hein. Et puis alors, ce que je vois, c'est quand se développe de façon... Enfin, les rivalités, justement, avec le grand théâtre professionnel, quand il prend forme, c'est-à-dire pour les pays germaniques, après 1650. Hein. Voilà, quand même, la guerre de 30 ans est une coupure. Je ne dis pas que tout s'est arrêté, mais ça reste quand même une grande coupure. Donc, à ce moment-là, les princes disent, maintenant, terminez ces affaires de religion, on va s'entendre, et puis, il faut faire le commerce, il faut, etc. Donc, à la cour, ils prennent des Italiens, y compris des représentants de la Comédie dell'Arte, hein, beaucoup, qui sont toujours très appréciés, qui sont d'ailleurs de plus en plus cultivés. On ne peut pas croire que ce sont uniquement les certains banques primitifs de la rue vénitienne du XVIe siècle. Hein, ils sont devenus des gens cultivés, etc., qui écrivent des vraies pièces aussi, quand c'est nécessaire. Ils prennent ça, et puis ils ont l'opéra, et puis ils ont la danse. Alors, vous avez dans les grandes représentations jésuites, notamment au XVIIIe siècle, pas mal d'intermèdes dansés, musicaux. Vous avez l'organiste de la chapelle impériale, par exemple, à Vienne, qui fait les compositions pour les pièces jésuites. Ce sont d'énormes machines, à ce moment-là. Hein. C'est du grand show. Il n'y a pas de doute. Hein. Et là, on est bien obligé de faire venir des danseurs, etc. Bon, on met des jeunes du collège avec pour les former, mais on a toujours des maîtres de danse, des maîtres de ballet, on a des orchestres, on a, etc., qui viennent de l'extérieur. Ça, c'est une... Bon, ça aurait été considéré comme une dérive, fin du XVIe siècle, au début du XVIIe, ça c'est clair. Mais c'est une réalité. Mais normalement, l'acteur, encore une fois... Alors, ça, c'est le problème. Veut-on dire acteur-élève ou élève-acteur? À mon avis, il faut dire élève-acteur. Hein. C'est quand même son statut d'élève qui l'intègre à une classe et qui fait qu'il passe au rôle d'acteur. Et là, on a la distinction, ben, que Mme Daudet ferait bien, évidemment, entre l'acteur stipendié, qui est l'histrion, hein, l'histrio, tandis que l'élève jésuite, il a été formé dans le cadre de la rhétorique, il est le rhétor. Hein. Il est le rhétor. Et là, il ne porte pas les stigmates qui sont appliqués à la figure, à cette figure de l'histrion, n'est-ce pas, qui, à l'origine, est le batteur de poire et, comment on dit, Schalksnar, hein, le bouffon public, etc., le charlatan. Charlatan. D'ailleurs, vous avez un autre jeu, mais comme vous voyez, il y a tout aussi une littérature qui n'est pas jésuite, qui tourne autour d'intellectuels catholiques. Il n'y en a pas tellement, mais il y en a quand même. Notamment, alors, le livre sur les professions du monde, tous les professions et le monde d'or. Alors, il y a un grand chapitre sur les charlatani, et puis il y a un chapitre sur les jésuites. Ils disent, ah, les bons pères, eux, ils savent, ils ont la force d'Orphée, hein, ils attirent à eux les belles âmes, ils les élèvent, etc. Oui.
Alors, plusieurs questions dans l'ordre chronologique. Laurence Marie, Jean-Pierre Klein, Bernard Stiegler. Oui, Laurence.
Je voulais juste savoir, j'imagine qu'il doit y avoir des traités d'actio qui ont été publiés par les jésuites allemands comme en France. Et je voulais savoir s'il y avait des marques dans ces traités de l'approche que doit avoir l'acteur à l'égard de son rôle. De quelle manière est-ce que les traités d'actio interprètent Cicéron et Quintilien? Est-ce qu'ils établissent une différenciation entre quand on joue un saint, par exemple, on conseille aux prédicateurs souvent de s'identifier à leur rôle puisque c'est Dieu qui parle à travers eux. Est-ce que là, c'est la même chose? Et est-ce qu'au contraire, on prend non pas le discours d'Antoine chez Cicéron, mais tout le reste de la position cicéronienne en faveur de la distance de l'acteur à l'égard de son rôle? Et dernière question, est-ce que le fait que les jésuites allemands lisent Aristote à la lumière donc des commentateurs italiens, qui sont beaucoup plus influencés par une interprétation platonisante que aristotélisante, est-ce que ça modifie leur manière d'envisager le rapport de l'acteur à l'égard de son rôle? Autrement dit, est-ce qu'ils mettent beaucoup plus en avant la spécificité de la mimésis, du rôle de l'acteur en tant que personne qui incarne un rôle, à la différence donc de chez Aristote, où la question de l'acteur n'est pas envisagée en tant que telle, c'est la création poétique qui importe. Voilà.
C'est tout. Non, mais merci beaucoup, parce que c'est... je dirais quand même que fondamentalement, ils ne vont pas si loin dans les détails. C'est lié au fait que la réflexion, d'ailleurs, quand même, en général, elle, sur l'acteur, elle vient assez tardivement. Hein. On a bien les règles générales de l'actio, de la prononciation, etc. Ce que vous avez dit est, je crois, essentiel, c'est-à-dire que pour la prédication, on a plus de textes, c'est ça ? Parce que la prédication, c'est quand même... Alors, vous me direz, c'est un peu le même domaine, hein, mais l'effet public est quand même plus grand, puisqu'il sort du monde plus spécialement, plus particulièrement limité de l'école. Hein. Donc, à mon avis, ben, moi, ce que je connais, hein, j'ai pas vu qu'on entrait très très loin dans le détail pour ce qui concerne cela. Ce qui se produit, c'est qu'en 1600, en 1727, un jésuite qui s'appelle Lang, Franciscus Lang, Franz Lang, hein, sa dissertation de Actione Scenica, est la première à parler de tout l'aspect technique des représentations. Mais ça va très loin dans le détail, hein, il décrit tout. C'est un beau texte, d'ailleurs, il faudrait que quelqu'un traduise en français un jour, parce qu'en français, il n'est pas connu.
Hein. C'est en cours de traduction.
En cours ?
Oui.
Il y a une traduction allemande, il y a une vingtaine d'années ou 30 ans. Et il y a des figures qui sont reproduites, des positions, du corps, etc. Et là, je crois que vous pourriez... Mais c'est pour dire que c'est d'ailleurs, en tant que je sache, en Allemagne, le premier traité, y compris sur l'ensemble de la production, hein, latine ou non latine, religieuse ou non religieuse, sur le rôle de l'acteur. Dire, c'est vraiment la partie, l'actio, la quatrième, cinquième partie de la rhétorique, qui se détache. Vous avez à ce moment-là une décomposition des grandes parties du système rhétorique. Hein. La rhétorique comme grand ensemble se décompose. Et ça, ça donne ça. Et vous l'avez en France avec Le Comédien de Raymond Saint-Albine, hein, qui est quand même un texte fondamental pour toute l'Europe, 1740. Hein. C'est le grand texte que tout le monde lit, que Lessing traduit en allemand. 47.
Bon, à quelques années près. Je dis ça à cause de la polémique avec Riccoboni sur la 47, 48, non,
oui,
ça avait été 40.
De 47.
C'est une affaire.
Oui, non, mais je parle de mémoire et pas directement littérature. Donc, mais là, vous avez aussi, où on considère l'objet, hein, vraiment, le comédien. Hein. Il dit bien le comédien. Comme donc c'est bien comédien professionnel, hein, il le considère comme un objet absolument pour lequel le commentaire, l'analyse est devenue nécessaire. Hein. Je pense que c'est cette prise de conscience européenne qui est tout à fait la présente. Alors, je ne sais plus qui étaient vos autres questions.
On va de toute façon, il y a beaucoup de questions qui commencent à... Alors Jean-Pierre Klein.
Oui, à propos de l'intériorisation du jeu et d'identification au personnage, comment est résolu le problème des rôles féminins?
Alors, normalement, il n'y a pas de femme. Oui, mais l'idéal, c'est l'ange, au fond. C'est à la limite. Il y a quand même une refoulement du sexuel qui est extrêmement fort.
Dans les pièces, il n'y a pas de femme.
Donc, il n'y a pas de femme acteur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnage féminin. Il y a des personnages féminins partout. Partout, mais comment on peut faire? Regardez. Mais oui, c'est bien ça qui les aurait embêtés. Non, ils n'ont d'ailleurs aucune hostilité à l'égard des personnages féminins. En revanche, l'interdiction de jouer, de faire jouer des rôles féminins par des femmes qui, de toute façon, auraient été extérieures au monde du collège, hein, ça, cette interdiction est générale.
Oui.
Donc les rôles sont interprétés par de jeunes garçons. Alors ça, c'est aussi un des reproches qu'on trouve beaucoup, y compris en France, d'ailleurs peut-être plus en France encore, en Espagne qu'en Allemagne, c'est-à-dire, ah oui, mais alors ça va faire des efféminés. Eh oui. Ça, c'est quelque chose qui comme ça, moi, je sens souvent ça dans les textes.
C'est du bon.
Et en même temps, toute la question
et que pour bien jouer, il faut. Mmh. Et donc, je pense qu'il y a là une espèce d'aporie formidable, qui à mon avis est toujours tout à fait actuelle.
Bon, voilà. Mais là, oui. Il y a...
Est-ce qu'elle se verbalise, est-ce qu'il y a un discours à cet égard en tant que tel, indépendamment, je veux dire au-delà de classique discours sur la fondation du théâtre, etc.
Alors, en tant que tel, spécifiquement, non. Mais, enfin, du moins, je ne connais pas. Il y a quelque chose quelque part, notamment du Portugal, pourquoi pas, ou de la Slovaquie. Mais ce qui me paraît intéressant, quitte à avoir l'air de me répéter, est ce que vous avez indiqué à la fin, ce qu'on reproche au théâtre professionnel, c'est justement d'être une profession. C'est-à-dire, on ne peut pas faire du théâtre une profession. Ça, c'est absolument fondamental. L'acteur ne peut pas être un acteur professionnel. Il fait son exercice, il se rend service, il rend service à d'autres. Quand il a fini son rôle, il s'en va et d'autres prennent la place. Donc ça, c'est, je crois, déjà une remarque. D'autre part, le thème de la séduction, qui est au fond la figure du diable dans le langage de l'époque, de Saint-Fureur, le séducteur, n'est-ce pas, le grand séducteur, qui explique d'ailleurs aussi l'élimination des actrices. On parle du corps, mais c'est sous le corps de la femme qui est rejeté dans tous les textes sur le théâtre. Ça, c'est absolument vrai. Ce rôle de la séduction, on le voit évidemment à l'œuvre quand même. C'est pour ça que c'est bien utile, cette distinction aussi entre théâtre professionnel, stipendié, etc., parce qu'il y a l'argent. Déjà. Quand il y a l'argent, il y a le sexe. Quand il y a le sexe, il y a le diable. Vous avez quand même ces enchaînements qui se font intellectuellement. Pas la même adhésion naturellement, mais il faut quand même reconstituer les modes de pensée. Et là, on a le diable présent. D'ailleurs, les figures qu'on a chez les pères de l'Église, on ne dira jamais à quel point les pères de l'Église ont été absolument une source inépuisable pour le discours sur le théâtre, au XVIe et surtout au XVIIe siècle, dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe. Chez les pères de l'Église, on rappelle quand même que. Enfin, on donne déjà les premières équivalences, théâtre égale lupanard. Si vous avez de l'argent et du sexe, ça donne le lupanard. Et donc, le lupanard, c'est une figure de cette séduction du monde et de la sexualité. Et puis alors aussi, vous aurez évidemment des développements sur l'argent, sur... Mais là, on peut mettre à profit, on peut utiliser évidemment toute la tradition des péchés capitaux, etc., qui sont là derrière. Mais on les projette toujours soit dans le théâtre professionnel, soit sur les figures négatives à l'intérieur du théâtre. Voilà.
Si on parle d'amateur qui vient de Bourg,
ah oui, oui.
Amateur.
Mais n'utilise pas le terme. Hein. Oui.
Oui, n'utilise pas le terme.
Non.
En revanche, je l'utilisais dans le domaine de la peinture.
Oui.
Et je dis ça parce qu'ici, nous interrogeons, nous sommes dans un institut, qui veut explorer l'avenir de l'amateur. Cet amateur, même s'il n'utilise pas le terme, pour pouvoir jouer, et donc, entre guillemets, bien jouer, parce qu'il y a quand même une question de qualité du jeu, qui doit bien se poser. Hein. Il doit bien y avoir des jeunes gens qui
sont un peu indécidables.
Mal, qui certes apprennent les textes par cœur, etc., qui appliquent les règles de la rhétorique, et qui pourtant ne jouent pas bien. Et puis d'autres qui sont meilleurs. Il doit bien y en avoir aussi qui tendent à s'attacher au théâtre. Oui, bien sûr, les pères disent que le théâtre, ce n'est que l'éducation, et moi, je continuerai à faire du théâtre après. Enfin, évidemment, c'est peut-être à cette époque-là, ce genre d'abandonnement n'est peut-être pas possible. Mais vous comprenez ce que je veux dire.
Mais il n'est pas faux, puisque.
Et, excusez-moi, non, mais... juste là, la question, ce n'est pas la séduction, du tout. C'est l'amour. Dont le Christ. Et la figure. Est-ce qu'il n'y a pas, et là je reviens sur les exercices, parce qu'on peut avoir une pratique des exercices spirituels très perverse. C'est, à mon avis, c'est la hantise même de l'univers de l'au-delà, cette pratique des exercices.
Oui, c'est pour ça qu'il ne voulait pas d'ailleurs qu'on les diffuse trop, il y avait un usage restrictif pour le théâtre.
Il y a une condition précise de mise en exercice.
C'est le succès qui est.
Il faut que la foi soit absolument. Doit être au service de la foi, pas au service d'eux-mêmes. Donc, dans le théâtre, la question doit se poser aussi. Elle n'est pas traitée en tant que telle.
Non. Parce qu'on met toujours en garde, encore surtout les Espagnols,
mais justement le risque qu'il y a, non pas une identification, puisque là il pense qu'il met aux limites, mais une espèce de professionnalisation ou quelque chose qui conduirait à une professionnalisation par les acteurs. Hein. Cela dit, je vais te donner l'exemple tout à l'heure, c'est pour ça que je voulais intervenir tout de suite. Il y a des cas, on sait très bien, où on a fait appel à des élèves qui étaient sortis de l'établissement et qui étaient déjà entrés, comment dire, aujourd'hui dans la vie active, en particulier à Lucerne, ou des choses comme ça, c'est Suisse. Parce que là, on était en conflit confessionnel encore plus virulent, hein, plus actif, donc on voulait absolument du bon théâtre, et on voulait quand même qu'ils jouent bien. Bien que ça, on ne parle jamais de bien jouer. Hein. Il y a des règles rhétoriques qui doivent être respectées, point. Mais comme vous dites, effectivement, il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Hein. Et donc, les amateurs, hein, ne sont pas mentionnés comme tels, c'est-à-dire le théâtre comme risque. Ça, c'est chez les adversaires.
Alors, deux questions.
On revient, monsieur.
Deux questions, si on peut encore. deux questions. Une, toute simple, factuelle, qui est directement connectée à la question que vient de poser Bernard et à votre réponse. Bon, alors, le mot jeu que nous employons, nous, pour parler de ça, comment ils appellent ça, eux ? Alors, en latin, je suppose qu'ils appellent pas ça jouer. Qu'est-ce que font bon, ils récitent, ils...
L'usus existe, mais c'est le texte, enfin, c'est et sa représentation. Hein.
Oui, c'est ça. Oui, c'est le jeu de Saint-Nicolas, jeu de machin. Oui,
voilà, c'est voilà, le jeu. Voilà, jeu. Non, c'est récitatio, c'est actio, c'est les termes de la rhétorique. Oui, c'est
ça. Voilà, ils récitent et ils agissent, mais bon, ils ne jouent pas. Et en particulier, il n'y a pas de. Est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas une question, Sophie Comte, vous avez montré un texte où, sur la pédagogie chez les jésuites, où on montrait par ailleurs, non pas à propos du théâtre, l'importance du jeu, éventuellement, mais alors jeu au sens ludique du mot. Un texte de Madame Lacotte, un texte assez ancien, si je me souviens bien, on l'a regardé. Est-ce qu'il y a une connexion ou pas du tout entre le jeu, disons, le jeu au sens ludique général, le jeu d'enfant, et le fait de se livrer à ces exercices de théâtre ou à cette.
Oui.
Est-ce que ça.
Oui, parce que la structure de la pièce n'est pas que du texte. Hein. Vous disiez tout à l'heure, et vous avez à l'intérieur des collèges, ça c'est déjà chez De Dainville, hein, parce qu'il avait réuni sous le titre d'exercitatio mentis, c'est-à-dire le progrès intellectuel qui se fait par ces jeux, ces combinaisons, etc. D'où l'utilisation des emblèmes, des énigmes, des rébus, etc. Et vous pouvez les avoir aussi dans les pièces de théâtre, qui sont proposées aux spectateurs, mais sur lesquelles les élèves qui jouent, ont donc eux-mêmes réfléchi avant. Alors, ça, c'est une composante qui est typiquement juste, mais qui est liée peut-être davantage au courant maniériste, enfin, qu'on voit se développer au XVIIe siècle. Absolument, absolument. Parce que là, vous avez de très grands jésuites qui ont donné, naturellement, dans le style maniériste, des traités, des écrits, etc. Naturellement, Tessaro, à la cour des Savoie-Carignan, hein, Canocchial et Aristotelico, hein, qui est un grand texte du maniérisme européen. Il y a un Allemand qui s'appelle Maassen, Lars Gutiarum, il y a évidemment Gracian aussi, hein, vous avez ces traditions. Et ça, au fond, ils ont théorisé une pratique qui existait aussi dans le jeu théâtral. Mais ça pouvait se faire sans théâtre. C'est-à-dire, quand vous aviez des fêtes de fin d'année, les cours étaient généralement, s'il y avait des arbres, tous les arbres, on affichait, c'était des affictionnes, donc on affichait vraiment des poèmes emblématiques, des choses comme ça, et on amenait les gens par une espèce de promenade hiéroglyphique, si j'ose dire, hein, vers la représentation. Hein. Ça peut être très élaboré. Ça peut être très élaboré.
Alors, si je fais à mon propre usage personnel, un petit bilan provisoire, ce que vous n'aimez pas. Donc, on pourrait dire que, si je comprends bien, que le fait de se livrer à cette activité, réciter, d'agir, hein, je vais suspendre pour l'instant le mot jouer, parce que justement, on ne sait pas.
Ah oui, en allemand, on dit agir,
c'est pas spiel. Justement, c'est peut-être l'émergence de ça qui nous intéresse. Donc, cette activité n'est absolument pas en elle-même une activité, on sait peu de dire qu'elle n'est pas condamnable, elle a au contraire des valeurs éminemment, intrinsèquement positives et, je ne sais pas comment dire, formatrices et spirituelles, etc. Mais cette activité ne doit pas devenir un métier, donc ne doit pas devenir profession si elle se... Si elle se quoi, si elle se répète, si elle
devient... Parce que même les auteurs ne sont pas professionnels.
Voilà. Si elle s'échange contre de l'argent, si elle s'autonomise en quelque sorte comme voilà. activité, si elle se spécialise voilà. et si elle se paye, enfin vous dites très clairement les femmes plus l'argent, ça donne des lupanards. C'est très clair. Si elle se paye, donc elle ne doit pas s'autonomiser, elle ne doit pas devenir une activité, séparée, comme d'une part, et d'autre part, mais sur ce point je suis plus prudent, il me semble que ça implique, mais je ne sais pas si je n'extrapole pas, cette non-séparation, qu'elle est quand même en un certain temps réservée plutôt à un âge de la vie, où est-ce que je me trompe C'est-à-dire que pour ne pas se séparer, il faut bien qu'elle soit à une époque qui est une époque de formation, d'apprentissage.
Absolument. Alors, je trouve pédagogiquement absolument prodigieux, parce qu'on a perdu, quand même, dans toutes nos formes d'éducation, le contact avec l'éducation par le jeu, par le théâtre, par etc. C'est largement.
Sauf apparemment dans les collèges de jésuites, jusqu'à assez récemment, dit-on. Voire il n'y a pas si longtemps. On dit que ça continue, il n'y a pas si longtemps que ça.
Ouais.
Enfin, en tout cas.
Oui, mais je pensais quand même plus la dimension sociale que ça avait et qui était très importante. Hein. Mais c'est vrai que c'est lié, là, vous avez absolument raison. Il y a quand même un espace qui est de support, l'institution, etc. Parce que quand même, quand on va à l'extérieur, quand on accueille des gens de l'extérieur, c'est quand même toujours à partir de cet espace. Qui est l'espace du collège, qui est quand même la fixation fondamentale. Parce qu'il y a aussi d'autres représentations qui ne sont pas directement dans le collège, mais ce sont les congrégations de la Vierge, congrégations mariales, sodalités, qui sont, alors sociologiquement, quelque chose de peut-être encore plus important que le collège, parce que ça regroupe des gens de toutes les professions, des adultes, etc. Et on a joué à l'intérieur de ces églises, hein, cette fois à l'intérieur de l'église, des jeux de caractère plus méditatif où la dominante spirituelle était beaucoup plus forte, mais qui ont quand même une parenté évidente avec un type de spectacle.
Et donc si pour la question qui nous occupe au moment dont nous parlons, dans cette configuration dont nous parlons grâce à vous, il y aurait une espèce de conjonction dont je prends acte comme ça provisoirement pour savoir ce que ça va devenir dans le cours de notre travail, de notre recherche, entre la non-séparation de cette activité, le fait qu'elles ne doivent pas s'exercer pour elles-mêmes, en quelque sorte, et le fait qu'elles s'exercent pendant l'adolescence, pendant la période de formation, et que ça c'est venu un point
à ce propos, y a-t-il une nécessité du public et la nécessité est-elle induite par la dimension de l'enseignement, donc comment est-ce qu'elle est inscrite dans les textes d'un point de vue très pratique? Vous parliez de 4 à 6 semaines de répétition, ce qui est très
dans
court
dans la classe,
oui ce qui est très court à raison de quoi d'heure, c'est ça, et pour quelle durée de représentation? Et dans quel théâtre? Avec quel décor? Quel costume?
Plusieurs questions. Oui. Donc, comme j'ai dit, il y a des exercices qui sont purement scolaires, qui sont au fond liés à la concertation, au débat, rhétorique. Là, on s'est terminé par un petit jeu, parce qu'on construit un petit spectacle. Hein, et puis là, on n'a généralement pas de décor, parce que ça se fait dans la classe. Donc ça, c'est vraiment l'activité, je dirais, là, elle est proprement pédagogique. Ça, c'est tout à fait clair. Quand vous arrivez dans la grande pièce, qui est d'ailleurs une pièce de fin d'année,
annuelle, oui, c'est ça.
Oui, elle est annuelle au moins, mais elle est généralement annuelle. Donc, cette pièce annuelle, c'est pas pour rien qu'elle est annuelle. Elle est quand même au couronnement de l'année, ce qui prouve l'importance. À ce moment-là, vous avez toujours du public extérieur, parce que vous avez les familles, etc., mais vous avez tous les dignitaires de la ville. Vous avez, on fait venir le banc et l'arrière-blanc de la noblesse locale, régionale, etc. Et les dignitaires ecclésiastiques. Quand on peut dire, on a eu 3 évêques, un archevêque, ah, oui, c'est bon. Et ça, c'est toujours noté dans les diaires des collèges, quand on a vraiment des visites. Cela dit, il arrive. Donc il faut du public. Et là, il y a vraiment du décor, mais les situations sont toutes différentes localement. Là, on n'a pas nécessairement des moyens. Il faut bien que quelqu'un paie, quand même. Bien que quelqu'un paie. Alors, en Espagne, apparemment, on payait son entrée. Et la justification des jésuites était de dire, oui, on fait payer une entrée, parce qu'elle était dit, mais vous êtes en train de rentrer de l'argent, là. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe chez vous? Éducation spirituelle se menait maintenant. Alors bon. Alors ils disaient oui, mais c'était vrai, ils entretenaient des hôpitaux. Alors ils disaient donc, on donne ces argents. Moi, ce que j'ai vu en Allemagne, etc., en Autriche, en Suisse, on ne pouvait pas payer. Mais c'est comme certains endroits, vous donnez ce que vous voulez. Hein. Puis il y a quelqu'un qui disait, bon, ça fait combien l'impression des programmes? Bon, je vous donne l'argent. Hein. Alors souvent, on avait un petit noble local, quand c'était des petites scènes, qui prenait en charge les frais. Hein. Mais dans les grands collèges, il y avait des costumes, il y avait des décors qui étaient conservés. Hein. Il y avait même des achats de sièges, où on en louait, c'est ça. Il fallait bien, quand vous aviez 700, 800 personnes, c'était pas rare. C'était, donc, il fallait les mettre. Et ça, c'est vraiment un phénomène ultra classique. On accueille vraiment le public, on le souhaite. Hein. Le spectacle est donné pour un public large. Je parle pas, naturellement, des grands défilés de la fin du XVIe siècle qui parcourent les villes. Alors, vous avez tout un autre aspect qui est l'aspect missionnaire de conquête ou de reconquête des territoires, hein, avec des symboliques de l'espace. Ça, c'est autre chose. Mais c'est quand même aussi une activité théâtrale des jésuites.
Michel, le guide.
Oui, je voulais rebondir à l'instant sur ce qu'a dit Bernard tout à l'heure. On me disait, au fond, peut-être que le bien joué n'a aucune importance et n'est pas la question.
C'est pas la question.
Parce que quand on voit, quand on en prend plaisir, nous, à les enfants qui jouent, mettons à l'école, on dit le gosse est là, il joue pas, il joue mal, et c'est justement le plaisir. Je veux dire, mais... peut-être que la question du bien joué, autrement dit, quand commence-t-elle à se poser avec une importance profondément.
Le problème est toujours celui des situations de rivalité. Parce que vous dites, c'est fondamental. Hein. La question du bien joué, comme on l'entend, de prendre simplement plaisir, ça, on l'évoque pas. Hein. Ou alors on dit, oui, mais alors la suavité, la musique, etc., pénètre l'âme et donc contribue à cette élévation spirituelle que l'on recherche. Donc c'est un petit peu un ensemble de perceptions. Mais le jeu de tel ou tel acteur, c'est pas une donnée. Hein. Moi, j'ai jamais trouvé. Ce qui ne veut pas dire qu'on s'y intéresse pas, pour ceux qui les font pas. C'est encore une raison. Mais on n'a pas toujours les documents pour pouvoir concrétiser ça. Hein. Ça,
c'est... Il y a un avec l'actio, quand même.
Oui.
Il y a cet enjeu-là.
Oui, il y a cet enjeu-là. Mais bon, il a des classiques. Mais il faut faire aussi jouer le plus possible d'enfants.
Oui, mais je veux dire, dans la façon dont
on l'apprécie.
En tant que pratique pédagogique, ça se traduit par une maîtrise du corps. Donc il y a un intérêt pour ça.
Oui, mais ça, normalement, ils l'ont fait pendant plusieurs années. Cela dit, il y a des gens qui peuvent, qui malgré cela, ce que tu dis tout à l'heure, je crois, n'arrivent pas à bien dire un texte, ou crient trop fort, ou parlent pas assez fort, on connaît tout ça, hein. Ou se déplace mal sur la scène, par exemple. Dans le traité de Francesco Sang, il montre comment on doit traverser, comment on doit sortir, comment on doit entrer, etc. Mais ça, c'est 1727. Vous voyez, c'est quand même tardif par rapport aux pratiques qu'on a avant. Hein.
Laura Ludex.
Oui, justement, par rapport à ça, et la question du bien joué. Alors, évidemment, je pense, j'ai sous les yeux des extraits d'une traduction, parce que moi, je suis vraiment pas latiniste, du traité de Jouvency, et qui date donc fin 17e, là encore, on est tard. Vous allez.
Il a été répondu dans toute l'Europe.
Et j'ai cette citation, qui est en français, qui est une traduction, il faudra encore inviter, donc c'est dans le chapitre Manière de prononcer ou art de la voix et du geste, il faudra encore inviter des amis, des parents, des personnes inconnues, pour les entendre s'exercer, en particulier avant de les produire sur le théâtre.
Ah oui, donc ça, c'est des révélations.
S'ils sont encore novices dans l'art de la déclamation, car c'est le moyen de leur donner de l'assurance, et souvent la voix et les conseils d'un étranger quelconque font plus d'effet sur eux que celle de leur maître à qui ils sont accoutumés. Oui. Et je me demandais si on ne pouvait pas poser l'hypothèse, ce ne serait pas le bien joué à ce moment-là qu'on ne peut pas effectivement convoquer en tant que tel. Et on a d'autres expressions, mettre en scène la mort avec utilité. Enfin,
avec utilité.
L'idée d'efficace, l'idée
de l'effet. Efficace. Absolument. C'est l'effet.
On dira d'ailleurs, pas bien, c'est effectif. Quoi,
mais l'allemand, un mot pratique, c'est Wirkungsästhetik. C'est une esthétique de l'effet. Hein. Qu'est-ce qu'on produit comme. Non pas effet, comme ça, mais. L'effet réel sur les personnes qui regardent, qui écoutent.
Mais probablement qu'une des questions qui nous occupe ici, et ça c'est, c'est un, quelque chose qui traverse, j'espère qu'il traversera notre travail, c'est que justement le problème c'est de ne pas. On a probablement affaire à un processus d'émergence qui historiquement est long. Et le fait que y ait des traits qui apparaissent, d'évaluation, mais que ces traits ne soient pas mis au compte du jeu, à ma connaissance, hein, si, de rien de tel que le jeu, et que l'appréciation de cela ne soit pas encore constituée selon des modèles qui sont nos modèles esthétiques, je crois qu'il faut absolument que nous nous prémunissions contre le fait de transposer et de référer, parce que ce qui nous occupe, c'est justement l'émergence.
Oui.
Ce qui nous occupe, c'est justement l'émergence de ça, l'affaire de ça, ce qui est sort certainement une des bifurcations importantes de notre histoire, c'est de savoir à partir de quel moment quelque chose comme du jeu apparaît sous ce nom ou sous ces noms. Il y a plusieurs noms. Avec une évaluation qui est esthétique, avec l'appréciation de quelque chose comme la faculté de jouer, c'est-à-dire le fait que les gens sont ou non capables de jouer, ce qui n'est pas pareil que bien dire, que bien voilà. Entrer et bien voilà. Sortir de scène, qui n'est pas pareil que voilà, qui n'est pas pareil donc que l'axio, c'est justement l'émergence de l'esthética à partir de quelque chose qui n'est pas encore esthétique. C'est-à-dire on a affaire à une histoire. Alors cette histoire, il y a des anticipations. Il y a des je veux dire, c'est pas, on peut pas dater ça de 1750, encore que la date soit, à mon avis, probablement très 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 importante, mais
c'est
on peut pas.
C'est comme
oui, voilà, c'est le 18e. Bon, voilà, c'est dans le 18e.
Et si vous voulez, ça correspond aussi à une reconnaissance de plus en plus large des troupes professionnelles.
Oui, bien sûr,
c'est-à-dire
bien sûr.
Cette fois la victoire de l'Histrion sur le Rhéteur, quand même, qui est les grands, l'idée de théâtre national. Ça ne peut pas se réaliser si ce ne sont pas des troupes professionnelles. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on appelle en allemand les principales, qui dirigent les troupes, hein, deviennent des écrivains eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire que là, le joint avec la littérature se fait, et qu'on saute donc complètement au-dessus de l'ancienne structure qui était liée au système rhétorique.
Alors, encore une dernière question, mais est-ce que vous accordez, alors c'est évidemment pour le... Est-ce que vous accordez le moindre crédit à l'hypothèse selon laquelle, en renversant, vous avez bien dit, bien souligné l'importance qu'avaient pu avoir les exercices spirituels par rapport à ces modèles de formation et par rapport à l'usage du théâtre dans l'activité dramatique dans ces modèles de formation. Mais est-ce que vous accordez le moindre crédit, ou est-ce que c'est une fantaisie, une baliverne, à l'idée qu'on puisse renverser le schéma et que éventuellement l'exercice spirituel eux-mêmes soit le fruit et comporte quelque chose comme un modèle théâtral en leur sein. Y a-t-il, est-ce que c'est historiquement un anachronisme absolu? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que vous croyez qu'il y a la moindre utilité à imaginer que le fait même, vous voyez bien de quoi, beaucoup mieux que moi de quoi je parle, le fait même que les dispositifs évoqués par les... Est-ce qu'on peut, ou pas du tout, dire qu'il y a pu y avoir une source, entre guillemets, théâtrale dans ça.
Est-ce que je peux ajouter une...
Allez-y, c'est bien compliqué. Mais c'est la même
question. Est-ce que vous voyez une filiation entre l'exercice de Nadia et les pratiques de soi dont parle Foucault à l'époque des chrétiens? Parce que pour moi, les exercices spirituels, c'est une poursuite. Ouais. C'est pratique.
Oui, il est plus facile d'aller vers là que. C'est quand même. Ce retour intérieur, cette discipline, c'est un militaire aussi, quand même, hein, au départ. Et d'ailleurs, il n'est pas le premier, c'est de Cisneros, en Espagne, qui. Donc, c'est quand même une tradition qui existe. Est-ce qu'il prend des modèles théâtraux? Je ne sais pas.
La proposition des lieux, tout ça, il y a ou rien du tout, à votre avis, de ce point de vue-là? Ça vous a jamais paru.
Non, je ne me suis jamais posé la question dans ce sens-là, mais je repars donc avec un bilan très positif, puisque. Je suis obligé de réfléchir là-dessus maintenant. Mais, a priori, quand même, Loyola, c'est pas un homme de culture humaniste. Après, bon, il est venu à Paris, il a fait ses études avec les autres, là, le groupe des 10, il devient quand même maître S.A.R. de l'université. C'est la première fois qu'une institution religieuse de ce type est fondée par des gens qui ont atteint ce degré académique, n'est-ce pas ? Ce qui est très important pour leur propre revendication, renseigner ensuite quand ça deviendra une obligation. Parce que l'ordre n'est pas fondé pour cela. Il est fondé pour la croisade, pour l'enseignement des pauvres, etc. etc. Hein. Et pas du tout pour faire de l'enseignement. C'est circonstanciel. Donc j'aurais quand même des réserves, ne serait-ce qu'à cause de cette... oser ce renversement. Parce que c'est clair que la composition de lieu, que le... Tous les éléments de matérialisation ou de support matériel à la méditation, hein, parce qu'au fond, c'est quand même ça, pour simplifier. Ça, c'est très favorable à une pratique du théâtre, mais ça ne peut pas l'expliquer seulement sans les circonstances historiques qui font qu'ils se sont trouvés là, et qu'à Messine, on leur a dit qu'il faut éduquer les enfants royaux. Le général a beaucoup réfléchi, et puis il a dit oui, quand même. Bon, parce qu'il a compris que, tiens, si on occupe des positions importantes là, peut-être que notre action... Mais alors, c'était évidemment se détourner. Cela dit, ils n'ont pas abandonné les missions populaires. Bon, mais pour revenir à votre question, je ne saurais pas y répondre de façon honnête. Hein, et même pour faire plaisir, je ne peux pas vous dire que
c'est d'accord. C'est une très bonne question.
Non, c'est une très bonne question, mais je n'ai pas, travaillé dessus.
J'essaie de répondre à la question.
Oui.
Le dispositif même des arts de mémoire, de théâtralité, pas, ils ont,
oui. Oui, mais ça...
a priori l'espace de méditation.
Oui, oui. Ben à ce moment-là, l'espace rhétorique nourrit très largement. Mmh. Et je me demande dans quelle mesure. C'est pas élaboré complètement au départ, c'est ça le problème. Hein. C'est un institut qui était projeté dans une situation qui est légèrement antérieur au Concile de Trente et qui va se stabiliser après le Concile de Trente. Donc ils sont hors corpus ecclésiasticum, puisqu'ils sont attachés au pape directement, mais quand même, sans l'appui des princes, sans l'appui des évêques, il n'y a pas d'action. Il leur a fallu ça. Puis quand ils s'installent quelque part, il faut bien que l'on leur donne des moyens matériels de faire tourner une institution. Donc il faut des privilèges, etc. Alors eux ne demandent pas de brasserie. Hein. Généralement, vous voyez en Bavière... Franciscana, etc., Paolana, ce sont tous des ordres religieux qui avaient des privilèges pour leur donner des revenus. Hein. Eux, ils sont en dehors de ça parce que tout est pris. Donc il faut avoir d'autres aides, etc. Donc ils ont beaucoup, à mon avis, improvisé et pendant près d'un demi-siècle. C'est long. C'est long. C'est long. Et puis, même les réformes du Concile de Trente, n'imaginez pas que ça s'est mis en place comme ça du jour au lendemain. Hein. C'est qu'en France, on attend 1619 l'Assemblée du clergé pour que ça soit vraiment reconnu. Bon, ça s'est quand même terminé en 1563. Que diraient nos évêques actuels si les choses allaient si lentement?
Cher Jean-Marie Valentin, on ne saurait assez vous remercier de nous avoir éclairé pendant toute la matinée. On a encore des milliers de questions à vous adresser, mais nous les laisserons en suspens. Et nous nous retrouverons, tous ceux qui le souhaitent, le jeudi 23 novembre, avec votre collègue Georges Forestier, pour parler plutôt d'un versant féminin des choses, hein, et de la maison de Saint-Louis à Saint-Cyr, et puis la question de... Nous reviendrons, j'en suis sûr, sur plusieurs des questions qui ont été évoquées ici. Donc, en notre nom à tous, au nom de l'IRIC qui nous accueille, et puis de notre travail, notre séminaire, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un peu amusant pour moi, parce que c'était tout de même 30 ans ou plus que j'ai terminé ces travaux, mais depuis quelques années, on me disait venez à Coimbra, venez à Oviedo, venez là. Et là maintenant, je dois aller à Bratislava. Voilà qui découvre la chose.
C'est notre cas.
Alors à l'époque, j'avais vraiment pas très bien compris, alors je me dis maintenant, voilà. Il faut laisser mûrir les choses. Merci de votre attention et de vos questions.
Utiliser la prochaine fois.
Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. C'est pour beaucoup sur ce point-là. C'est quand même un sujet assez lointain.